Ça c'est difficile physiquement, surtout quand là j'approche, comme vous voyez. Donc, parce qu'il faut développer le volume sonore suffisant pour que tout le monde m'entende, et en même temps garder le fil de mes idées. Donc, n'hésitez pas à noter si vous avez des questions qui vous viennent, notez-les sur un coin de papier, et puis on les pose à la fin. Alors, j'ai quelques feuilles de la dernière fois pour... Vous pouvez me les demander à la fin du cours pour ceux qui les voudraient. Nous avons donc cette année, le sujet, c'est un sujet apologétique. On va avoir 7 séances. Et les 2 premières sont des séances un peu plus générales où on met en place les notions. La dernière fois, on a vu ce qu'était l'apologétique, donc une sorte de fonction de la théologie, c'est-à-dire que c'est le chrétien, le croyant qui réfléchit à la foi qu'il a reçue, et qui réfléchit aussi aux moyens de la communiquer, de montrer qu'elle n'est pas absurde, qu'elle n'est pas contre la raison, à ceux qui se posent des questions. Donc il y a une question défensive. Vous avez une petite feuille là sur le papier, là, sur la chaise d'un enfant. Vous avez une notion défensive qui est dans le mot apologétique. Apologia, ça veut dire défense en grec. Mais plus pratiquement encore, l'apologétique, c'est un chemin. C'est quelque chose, le cardinal Journet, dans un très beau livre qui s'appelle Vérité de Pascal, qui a été publié en Suisse, je ne sais pas si ça a été réédité, mais en 51. Enfin, c'est un livre absolument magnifique parce qu'il permet de lire Pascal avec un œil véritablement chrétien, en laissant tomber le côté un peu trop pessimiste et janséniste de Pascal. Alors, dans ce livre-là, Journet insiste sur le fait que l'apologétique, certainement, c'est une défense, mais c'est aussi un chemin pour dégager des obstacles et pour accompagner quelqu'un qui se pose des questions, vous voyez, pour aider, en fait, nous, par une parole un peu raisonnable, le travail que la grâce fait en lui. Je crois que c'est très important quand on essaye de faire un peu d'apostolat, ça arrive que souvent c'est un apostolat dans un milieu agnostique ou indifférent, ou en tout cas non catholique, non activement catholique, de se dire que notre apostolat est un instrument qui aide le Saint-Esprit. Et que le principal travail est fait par les grâces de Dieu qui s'attaquent au cœur de chaque homme pour les amener à la vérité de la révélation. Alors, la dernière fois, on a vu que la révélation était possible et qu'elle était même nécessaire pour un certain nombre de choses et qu'elle n'était pas du tout contraire à la raison. Et maintenant, on va s'interroger sur les critères, étant supposé que Dieu existe, ça on le voit en métaphysique, que Dieu peut parler, que Dieu a une intelligence, que Dieu est une personne, donc il peut se mettre à communiquer avec nous. Vous voyez, là, ça fait déjà un ensemble de choses assez importantes qui relèvent en fait déjà de la métaphysique et de la théologie. Alors, c'est pas, je ne fais pas un cours de métaphysique, donc je ne développe pas ces choses-là. On en a un peu parlé la dernière fois. C'est la partie de la métaphysique qu'on appelle la théologie naturelle. Puis, on en a parlé au printemps dernier, moi-même et le père Rivoire. Mais ces choses-là étant supposées, si Dieu existe, il y a un créateur distinct du monde, qu'il a toutes les qualités des gens qui sont les meilleurs qui sont dans le monde, c'est-à-dire les hommes, c'est donc une personne, il peut nous parler. Alors maintenant, comment va-t-on savoir s'il nous parle? Vous voyez, en fait, l'enjeu, le challenge de l'apologétique, c'est de dire, si Dieu parle, comment je peux reconnaître s'il a parlé et qu'est-ce qu'il a dit? Et ça, c'est une chose très importante, parce que ça évite de se fourvoyer dans le maquis des prétendants à la révélation. Vous savez qu'il y a un certain nombre de religions qui se prétendent révéler, à quel point en affirmant même qu'elle est l'auteur de leur révélation, et donc il ne s'agit pas de se tromper en faisant le choix, parce que comme elles disent des choses contradictoires, il n'y en a qu'une qui peut être totalement dans le vrai. Ça je le rappelle aujourd'hui, parce que malheureusement on vit trop dans un climat de relativisme, de diminution des angles de la vérité. On a des choses en commun avec les juifs croyants actuels, non chrétiens, on a des choses en commun avec les musulmans, mais notre affirmation de foi en forme aussi des choses formellement contradictoires avec ce que pensent et croient, et qu'ils affirment être révélés. Donc il faut bien qu'il y ait un moyen de se départager. Pas simplement, tu vois, moi je suis né dans le christianisme, et ça me plaît, etc. Il faut qu'il y ait un moyen objectif de se départager, sinon il y aurait comme une contradiction à l'intérieur de Dieu qui est la raison suprême, qui est la pensée, qui est la joie, qui est tout ce qu'on veut, qui est tout l'être, etc., et qui ne donnerait pas aux hommes le moyen de discerner où se trouve lui-même, sa vérité, ses traces dans le monde. Donc c'est ça le rôle de l'apologétique. Alors on va essayer de voir donc aujourd'hui quels sont les critères pour une révélation divine, pour quelque chose qui se présente et qui est une révélation divine, quels sont les critères qui l'accréditent? Quelles sont les lettres de créance, si vous voulez, du prophète ou de celui qui se prétend inspiré de Dieu? Vous voyez, Saint Thomas, cet exemple, on le reverra dans le miracle. Le miracle, c'est le sceau de Dieu apposé au bas de la lettre qu'il écrit à l'humanité. Dieu écrit une lettre à l'humanité pour lui montrer que c'est lui qui écrit. Eh bien, il fait un miracle dont on voit bien qu'il accrédite cette lettre, et donc on sait qu'il vient de Dieu, hein, ou les lettres de créance de l'ambassadeur. Alors, est-ce qu'il y a un moyen de discerner par la raison? Là, évidemment, moi je vous parle comme chrétien, comme théologien, mais je vais essayer aussi de vous parler au maximum avec des arguments que ceux d'entre vous qui n'ont pas la foi peuvent recevoir. Enfin, c'est un café, caté, donc c'est une catéchèse, donc normalement ça s'adresse à des baptisés, plus ou moins instruits, mais enfin bon, un tout petit minimum quand même. Mais bon, dans le café caté, on a eu aussi des gens qui n'avaient pas la foi, peut-être que c'est votre cas, je ne dirais pas que ce n'est pas grave, le tout est de monter. Le tout est d'aller vers la lumière qu'on désire, dans la lumière qu'on possède. C'est un très beau mot de Saint-Augustin. Marche dans la lumière que tu possèdes, dans la lumière que tu désires. Donc, il y a eu des gens qui sont venus au café caté, qui n'avaient pas la foi, et certains l'ont, je crois, ça les a aidés à la trouver, ou à la retrouver. Bon, mais enfin, c'est quand même une catéchèse. Hein. Donc, je ne cache pas le fait que, genre, ça serait difficile, que je suis catholique, quoi. Hein, et que je trouve ça pas mal, quoi, finalement, même en vieillissant. C'est des choses qui ne vieillissent pas dans mon amour, dans mon enthousiasme. Mais enfin, on communique au maximum sur le registre de la raison pour qu'ensuite on soit armé pour aider ceux qui cherchent la foi sans l'avoir. Donc la apologétique, c'est vraiment une partie de la théologie. Elle s'adresse, elle est faite par des croyants, mais il faut que le maximum là-dedans soit compréhensible à des non-croyants pour, au sein de Louis Anson, aller un peu plus loin. Alors, d'abord, on va faire une mise en place. Hein. Qu'est-ce que c'est que quelque chose, une révélation? On a vu ce qu'était la dernière fois dans le dernier cours. On a réfléchi à la notion de révélation. Dieu révèle des choses qui sont dignes d'intérêt, évidemment, et qui sont cachées. Et la révélation au sens propre, il s'agit des choses qui sont cachées vraiment dans le mystère de Dieu. Il y a très belle l'épître de saint Paul où il dit ce qui était caché avant les siècles, etc., dans le enveloppé d'un silence éternel, nous dit-il, nous a été dévoilé aujourd'hui. Ben, cet dévoilement, c'est que Dieu est essentiellement amour, c'est son nom majusculaire, si vous voulez, agapé, et qu'il s'est incarné, justement, ce qui était impensable pour certaines sagesses anciennes. Ben, il y a des places pour s'asseoir par là. Je suis vraiment désolé de vous soyez assis par terre. Donc, c'est, vous voyez, c'est donc que Dieu va nous donner connaissance de ce qu'il est en lui-même dans son secret, si vous voulez. La révélation, c'est comme une communication entre amis. Hein, entre amis, on se dit des choses qu'on ne dit pas à tout le monde. Bon, et l'image est prise dans l'écriture. Hein, si quelqu'un m'aime ou me cherche, enfin, je viendrai, je dînerai avec lui. C'est pas je déjeunerai avec lui. Quelquefois, on déjeune rapidement à la gare, entre midi et 2 heures. Ça va assez vite, le dîner, on n'est plus détendu, quoi. Puis il fait un peu moins soleil, enfin, c'est l'heure des confidences, quoi, normalement. Un bon dîner, un bon souper aux chandelles, ça marche comme ça. Voilà. Mais la révélation, c'est un peu comme ça. C'est Dieu nous dit des choses sur son intimité. Et je pense que s'il y a une telle difficulté actuelle à recevoir la révélation, c'est qu'on a perdu le sens du mystère, même naturel. Je vous l'ai dit un peu la dernière fois. Vous voyez, il y a un certain rationalisme au sens péjoratif du terme, dans lequel on considère comme vrai ce qui est strictement démontrable par une science physico-mathématique uniquement, et alors ça c'est juste soi-disant, et le reste ça serait faux, alors que l'essentiel de la réalité que nous côtoyons, comme ce qu'il y a dans le cœur des gens que nous fréquentons, c'est un mystère naturel qui est fascinant d'ailleurs. Et je vous ai donné cette définition de l'amour. Donc aimer quelqu'un, c'est passer sa vie à être fasciné par le mystère d'une personne. C'est un mystère naturel, c'est pas surnaturel. Mais qu'est-ce qu'il a dans le cœur, qu'est-ce qu'il a lui-même, hein? Et je crois que l'aventure de l'amour humain ou des amitiés humaines, c'est de cheminer en parallèle pour découvrir une partie de ça, pas tout, une partie. Et on a perdu un peu ce sens contemplatif du mystère. On est tombé dans un monde tristement efficient, hein? La chair est triste, et là, c'est j'ai lu tous les livres, mais là, c'est le SMS qui est court et j'ai déjà tous lu, quoi. Et donc, c'est rasoir. Et il n'y a rien à savoir, en fait, il n'y a rien. Quoi. C'est un univers qui exude l'ennui parce qu'il ne se passe rien, et je crois qu'il ne se passe rien parce qu'il n'y a pas de mystère. En fait. Et c'est complètement aberrant parce que quand on réfléchit, par exemple, à la progression des sciences, même de toute la science moderne depuis 100 ans, 150 ans, elle a progressé parce qu'il y avait des contemplatifs naturels, si vous voulez, les fondateurs de la science moderne, qui avaient le sens du mystère, qui étaient fascinés par le mystère des choses. Bon, donc il faut revenir un peu au sens du mystère pour se rouvrir à la révélation. Alors, maintenant, la révélation étant la parole de Dieu, la parole d'un être qui est caché, comment va-t-on savoir si c'est lui qui a parlé? Alors, pour qu'une révélation soit crédible, eh bien, il faut que le témoin soit digne de foi. C'est mon premier petit paragraphe. Je vous ai mis le renvoi à la première phrase de l'encyclique de Jean-Paul II, Fides et Ratio, la foi et la raison sont comme les deux ailes qui permettent à l'esprit humain de s'élever vers la contemplation de la vérité. C'est une belle phrase encycliquaire qui ouvre Fides et Ratio, cette très belle encyclique de 98. Alors, il y a deux sources de la connaissance. Si vous avez, on l'a déjà dit plusieurs fois, la raison, si vous voulez, dans un sens très large, hein. Quand je dis la raison, c'est pas une mot de raisonnement. Dans la raison, il y a une densité contemplative que le monde raisonnement ne véhicule pas. Et je crois que c'est justement l'impasse de la philosophie, c'est qu'elle oublie cette dimension profondément contemplative de l'esprit qui communie avec les transcendantaux, qui communie avec la réalité, avec le beau, avec au-delà du raisonnement, ensuite il va raisonner, c'est ça. Mais il communie, il commence et il termine par une communion avec les choses. Mais ça, c'est très important parce que je crois que le discrédit de l'intelligence vient d'une confusion de l'intelligence avec sa faculté raisonnante. Et il faut retrouver absolument cette dimension contemplative de l'intelligence qui nous fait mesurer que le raisonnement et le mouvement de l'esprit, dans tous ses sens, possible, induction, raisonnement, en fait, est toujours entre deux états de l'esprit qui eux-mêmes ne sont pas des raisonnements, qui sont plutôt des actes contemplatifs. Et ça, c'est vrai dans différents domaines. Et je crois que c'est très important parce que si on veut s'opposer efficacement aux tendances de la philosophie moderne, spécialement à Descartes et à Kant, il faut vraiment enraciner l'intelligence dans sa communion avec l'être. Donc voilà, l'intelligence connaît la vérité en la regardant, en regardant l'être qui lui est accessible, hein, par les sens, pour nous les hommes. Et puis elle a une autre source, c'est qu'elle connaît la vérité par le témoin de quelqu'un qui est bien informé, qui n'a pas de raison de nous tromper. Et le témoin qui est dit deux fois, il est crédible, c'est passé dans le vocabulaire, hein, parce que il a la science voulue, et puis il n'a pas de raison, il n'a pas intérêt à me tromper. Bon, mais ça, ce que je dis, il peut y avoir un pervers, il y a un prof qui va enseigner des trucs faux pour pervertir les gens. Enfin, ça arrive, en particulier en philo. Enfin, moi, c'est arrivé dans les années de Sartre et des autres. Mais maintenant, on a des jeunes philosophes tout purs et tout lumineux qui nous enseignent la vérité. Enfin, mais pas tous, quand même. Enfin, bon, il y a des pervers qui ont plaisir à détruire, à déconstruire l'esprit des gens. Et ils sont payés par ça pour ça, enfin, ils se croient payés pour ça par l'éducation nationale. Et ils vous vendent des bouquins à 200 francs, enfin, je ne sais pas combien ça fait d'euros maintenant, mais qui s'appellent la non-philosophie, par exemple. Enfin, je prends un exemple vécu, hein, bon. Et ça, encore rien qu'au niveau de la licence, alors, au niveau du doctorat. Bon. Fermons la parenthèse. Enfin, un type normal, quand il fait un cours, c'est qu'il enseigne des choses qu'il sait être vraies et il n'a pas l'intention de tromper, vous voyez. Et en fait, l'humain est essentiellement fondé sur la foi humaine. Pour apprendre, il faut croire d'abord, Aristote l'avait vu, mais c'est une chose tout à fait fondamentale, et la grande erreur des pseudo-pédagogies modernes, qui signent l'école des crétins, voire celle des imbéciles, c'est de croire que le gosse sait déjà, quoi. Et c'est même pas parce qu'on est platonicien qu'on croit ça, mais c'est parce qu'on est nul, quoi. Parce qu'on est, post-structuraliste, d'où l'effondrement de la transmission depuis 40-50 ans, malgré les dénonciations portées par des prix Nobel et des médailles Fields. On n'arrive pas à remonter la pente. Il y a une erreur très profonde, qui est une erreur de négliger la foi humaine et donc l'aura du professeur, son autorité. On se lève quand le prof rentre, etc., on le respecte, on lui envoie pas de boulettes si possible, sinon on est puni. Enfin, on était avant la guerre du Golfe, hein. Ce hiver, on était puni. Quand on prenait une baffe à l'école, on ne racontait pas à la maison parce qu'on en prenait une deuxième du papa, voire pire. On ne décrit pas les horreurs. Mais enfin, moi, ça a essayé l'autorité du prof. Et du coup, ben, si vous voulez, la bête humaine révoltée et pécamineuse respectait le prof au moins pour son aura externe et quelquefois s'intéressait à ce qu'il disait pour certains d'entre eux. Et du coup, voilà, on pouvait. Mais parce que celui qui veut savoir, il faut d'abord qu'il croit. Et donc le prof était persuadé qu'il savait que nous ne savions pas. Bon, Et là, il nous enseignait pour que nous, en fin de course, nous sachions également. Mais donc, il y a tout un exercice de foi humaine, et c'est vrai qu'on est... Je me souviens, je vous ai peut-être raconté qu'un jour, il y a un évêque qui m'a dit, vous savez, pour me dire un peu la catastrophe qu'il venait de traverser, un évêque français, qui m'a dit, mais vous savez, mon père, je suis de cette génération qui a eu pour professeur les maîtres du soupçon. Alors, c'est impressionnant, et c'est vrai, le soupçon, et donc on introduit le soupçon dans les rapports humains, la foi humaine est ridiculisée, l'autorité est mise au vrai sens du terme, mais bon. Donc tout ça est une catastrophe parce que la plupart des gens n'arrivent pas à la possession de toutes les vérités en dehors de cette foi humaine. Et même chacun d'entre nous, nous avons une part de foi humaine qui fonctionne pour utiliser des choses et des résultats que les autres ont trouvé, nous avons besoin. Mais l'homme est essentiellement progressif et essentiellement social. On y reviendra pour la question de... Je répondrai à une des questions qui avait été posée sur la révélation, peut-être de façon plus précise, parce que l'homme est essentiellement politique et social. Donc, il reçoit. Oui. Et là, c'est vrai que nous avons besoin de recevoir des choses avant de les comprendre. Alors, donc, le témoin est au courant, il sait les choses, il a la science, il ne veut pas tromper, hein, et il affirme telle chose. Donc il y a des discussions pour savoir est-ce que le témoin a bien dit ça, qu'est-ce qu'il veut dire, etc. On interroge, on contre-interroge. Dans une enquête bien faite, on prend des précautions pour être sûr que c'est ce que le témoin a voulu dire. Vous voyez, l'enquête devant les flics, après la juge d'instruction, après, etc. On peut être interrogé par différentes personnes. Qu'est-ce que vous avez voulu dire quand vous avez dit ça? Est-ce que c'est ça sur quoi porte votre témoignage? Mais quand vous avez ces trois choses-là, hein, il a la science, il a la véracité, et il est bien établi qu'il a dit ça, il l'a relu, il a réfléchi, etc. Eh bien, voilà, si le témoin est crédible, on reçoit son témoignage. Et c'est pas possible de faire autrement. Alors, pour la foi chrétienne, il se passe quelque chose comme ça, et on n'y pense peut-être pas assez, finalement. C'est que la foi chrétienne, c'est une foi comme la foi humaine, sauf que comme le témoin est absolument compétent, hein, puisqu'il est omniscient, et qu'il est absolument rectifié, il est tout à fait moral, si je suis certain qu'il a, que ce témoin donc, a dit telle chose, eh bien je reçois, par l'aide de Dieu, on va voir comment, je reçois par la lumière de la foi, le témoignage comme vrai. Et la différence de la foi divine avec la foi humaine, c'est que dans la foi humaine, il y a une possibilité métaphysique, voire même parfois physique, de me tromper. Il est possible que certaines choses que je crois dures comme fer, bon, sur lesquelles j'ai construit ma vie, pour l'état civil par exemple, ne soient pas justes. Bon. Parce qu'on m'a trompé. Parce que quelqu'un a trompé dans l'échelle des témoins. Bon. Mais par contre, pour la foi divine, c'est pas possible. Parce que s'il est vraiment attesté que Dieu a accrédité des témoins savants et moraux qui ont dit telle chose, la lumière de la foi que je reçois dans mon cœur à ce moment-là me fait adhérer à cette chose-là de façon infaillible. Parce que là, il n'y a aucune bavure possible du côté du témoignage. Donc vous voyez, mais c'est important de comprendre, il y a une différence. Parce que dans la foi, il y a une infaillibilité du témoin, hein, qui est Dieu à l'origine, si vous voulez, même s'il utilise des prophètes. Tandis que dans la foi humaine, ça, il peut y avoir des cafouillages dans la chaîne de transmission. Mais enfin, quand même, on est obligé de s'appuyer sur des témoignages humains. Voilà. Alors, la foi chrétienne, elle s'appuie, elle va s'appuyer... non pas sur des évidences évidemment naturelles, sur la lumière naturelle de la raison, parce que ça c'est le domaine de la métaphysique, des sciences expérimentales, dans une moindre, oui, et puis des sciences humaines, ce qu'on appelle les sciences humaines aujourd'hui, etc., chacune avec un degré très analogique de certitude. Hein. Il faut faire très attention à mettre sur chaque chose le degré de certitude et le mode de procédé qu'il comporte, parce que sinon on a beaucoup d'illusions. Mais enfin, il y a quand même une certaine certitude morale, physique et métaphysique, bon, dans les choses naturelles. Par contre, là, il ne s'agit pas d'une chose naturelle, il s'agit de l'autorité, hein, autorité prise dans son sens le plus positif, non pas dans le sens d'une tyrannie ou d'une domination. Hein. L'autorité, c'est vraiment un mot latin qui signifie un accroissement. Donc, l'autorité de Dieu, c'est le fait que Dieu est la vérité première. C'est ça que ça veut dire. Le Thomiste traduit ça en disant Dieu est la vérité en lui-même, et Dieu est la vérité dans la connaissance, et donc comme il transmet, il est savant, il est parfaitement saint, donc ce qu'il transmet est une lumière juste auquel je peux adhérer. à laquelle je peux adhérer. Donc la foi adhère à cause de l'autorité de Dieu révélant. Et donc quand quelqu'un fait le chemin apologétique, il cherche, si vous voulez, alors il est aidé par des gens qui lui passent des bouquins ou des réflexions qu'il fait lui-même, hein, qui écartent des obstacles, qui lui ouvrent des perspectives, mais pendant qu'il fait tout ça avec la raison, intérieurement, le Saint-Esprit le pousse dans le sens de l'acceptation de la parole de Dieu. Et à l'instant où il ouvre complètement son cœur, vous voyez, on va voir, pour qu'il soit raisonnable d'ouvrir le cœur, il faut que ce ne soit pas absurde. Il faut qu'il y ait des raisons crédibles qui attestent, en effet, que le témoin, l'Église catholique, sera disant cela, a des bonnes raisons de dire ça. Bon. Mais ça, c'est à un certain niveau très important, mais le plus important n'est pas à ce niveau-là. Le plus important, c'est en nous-mêmes. Lorsque le cœur de l'homme, si vous voulez, qui a vraiment bien cherché, bon, qui s'est disposé, qui a essayé vraiment de comparer les titres de chacune des religions, etc. Bon, souvent, il passe par des épreuves, par des difficultés, par des souffrances, etc. Bon. Mais à un moment donné, il arrive et il ouvre complètement son esprit, par une grâce de Dieu, à quelque chose qui est le témoin lui-même, qui est Dieu. Oui. Qui est la lumière de Dieu révélant. Le formel dans la foi, c'est la lumière de Dieu qui, actuellement, dans mon esprit, me fait adhérer au mystère de la Trinité, au mystère de l'Incarnation. Et donc, quelqu'un m'avait posé la question, pourquoi tout le monde n'a pas une révélation ? Ben, la réponse, c'est tout le monde a une révélation. Celle que je viens de vous le dire. C'est que tout le monde n'est pas prophète. Mais tout le monde a une révélation, c'est-à-dire qu'il y a un chemin apologétique avec une crédibilité qu'on va essayer de mettre en place cette année, mais ça, c'est au niveau de la raison naturelle. C'est nécessaire parce que c'est immoral de croire sans signe de crédibilité. C'est immoral, c'est du fidéisme. Hein, c'est un péché horrible pour tout le monde, mais surtout pour un thomiste. Bon. Mais voilà, ça c'est un certain niveau. Parce qu'on ne va pas croire des choses contradictoires ou croire des choses qui n'ont aucun titre à être cru. Mais ça, si vous voulez, c'est un niveau de prudence humaine, mais de prudence même de sagesse humaine. C'est plus que de la prudence, c'est une sagesse oui métaphysique, vous voyez. Donc c'est. Mais là, Dieu fait signe dans cette direction-là, mais est-ce que je vais donner mon adhésion ? Là, ça sera le mystère de la grâce. Et la grâce fera que j'aurai dans mon cœur Dieu qui parlera à mon cœur, et j'entendrai la voix, celui qui... Jésus le dit dans l'Évangile, hein, qu'il y a le témoignage du Père en lui. Vous voyez. Et la foi, c'est quelque chose qui nous donne d'entendre une voix qui vient de l'infini, qui vient de Dieu. Ou alors c'est comme un œil par lequel nous voyons les choses avec l'œil même de Dieu. Et donc ça, c'est une révélation interne que nous avons et qui est le plus important dans la foi. L'autorité de Dieu révélant fait que nous avons actuellement dans notre cœur, vous voyez, cette lumière, si nous la recevons, à cause de la crédibilité, à cause de la grâce de Dieu, qui fait que nous nous ouvrons à quelque chose qui dépasse la raison, qui dépasse l'intelligence, mais qui ne la contredit pas. Alors ça, c'est extrêmement important parce qu'on m'avait posé la question en disant pourquoi chacun n'a pas une révélation. Alors, il y a différentes façons de répondre. Je crois que celle que je viens de vous donner là, qui est un élément de réponse, en fait, chacun a une révélation. Chacun, mais elle se présente différemment. Le chemin pour accéder à cette révélation est un chemin qui peut varier en fonction des tempéraments, des intelligences, de la culture, des capacités, etc., de l'histoire de chacun. Alors ça, c'est les préparations, si vous voulez, mais ces préparations étant honnêtement suivies, parce qu'il faut se bouger autant qu'on peut, fais ce qui est en toi, Dieu fera le reste du chemin, et bien Dieu se révèle en quelque sorte intérieurement au cœur de chacun par la lumière de la foi. Et nous avons dans cette lumière-là, l'avantage, si vous voulez, de ce système-là, c'est comme nous avons donné notre adhésion, bon, on va le voir, le schéma apologétique, hein, c'est Dieu, ça c'est de la métaphysique en fait. Dieu, le Christ, est-ce que le Christ est Dieu ? Ça c'est le cœur de l'apologétique. Est-ce qu'il est contre la raison d'affirmer que le Christ est Dieu ? Voilà, on explicitera. Et puis ensuite, est-ce que l'Église est mandatée par le Christ ? L'Église catholique, mon chef est à Rome. À Rome, actuellement, enfin, mon chef est l'évêque de Rome. Bon. Alors, c'est ça, l'enchaînement apologétique. Hein. Bon. Alors, dans cet enchaînement, vous voyez, celui qui reçoit intérieurement la lumière de Dieu, à cause des signes qui sont autour de la divinité du Christ, et à cause des signes qui sont autour de la mission de l'Église, eh bien, il sait sur quoi il faut croire. Voyez. Et ça sera le même si c'est Dupont, Paul, Pierre, Jacques. Hein, ils n'auront pas besoin chacun de faire une enquête psychanalytique pour savoir, toi, est-ce que tu sens que l'Esprit procède du Père et du Fils, ou bien est-ce que tu sens plutôt que l'Eucharistie, c'est vraiment la présence réelle ou simplement symbolique ou non. Parce qu'il a la lumière en lui, et la lumière lui dit, ben, il y a l'Église qui nous présente au dépôt. L'Église, c'est une condition seulement, mais enfin, elle est quand même bien utile. Et donc, on est tous, on n'a qu'à se référer, si vous voulez, à cette présentation. Ah oui, c'est bien ça, que la lumière intérieure est en train de nous révéler. Et donc, c'est assez intelligent. Ça peut paraître un peu complexe, mais c'est très libérant, vous voyez. Parce qu'au fond, les formules soi-disant individualistes sont quasiment des gnoses et des totalitarismes. Je crois ça, Toi, tu crois autre chose, il n'y a pas moyen de communiquer. Ou alors, il faudrait 9 milliards de connexions. Combinaison de 9 milliards pris 2 à 2, ça fait quand même beaucoup. Hein. Même avec un logiciel très puissant, c'est un peu... Et en plus, ça ne marche pas, parce que ce n'est pas purement informatique. C'est quand même des réalités métaphysiques. Donc, à se communiquer mutuellement, ça va prendre du temps pour savoir si on a tous la même foi. Quoi. Donc, voyez, il y a ce fait que nous avons cette révélation en nous, elle nous est donnée sous la garantie des signes de crédibilité pour la raison, et quant au contenu, pour la présentation de l'Église. Donc, il y a une harmonie, si vous voulez. Moi, comme dans mon expérience de personnel diagnostique recyclé, ça m'a beaucoup frappé. Ça, la cohérence de... Alors, en principe, j'étais un peu recyclé depuis cette période-là, mais enfin, quand même, j'ai passé 5 ou 6 ans là-dedans. Il y a quand même une cohérence, vous voyez, dans la... Il y a l'objet de la foi qui est mystérieux, avec cette parole de Dieu qui me le révèle en moi, les signes de crédibilité qui m'ont toujours beaucoup frappé, moi-même, quand j'étais agnostique, je trouvais que l'Église était sympathique, bon. Et puis, voilà, ça c'est très, très sympathique. Et puis le fait que c'est cohérent parce que ça reste social et politique, oui. C'est-à-dire que ça passe vraiment, je reçois ça d'un missionnaire ou d'un évêque, ou qui lui-même en cohérence avec le pape, avec 2000 ans de papes et d'évêques qui ont réfléchi sur la question, des manuscrits, on verra la prochaine fois, les plus anciens du monde pratiquement, entre la date de leur rédaction et celui qu'on a, c'est les évangiles, etc. Donc, c'est fabuleux, quoi. Donc, si vous voulez, il y a une espèce de cohérence à la fois historique pour les signes de crédibilité, rationnelle et métaphysique, et en même temps sociale. On n'est pas seul, on est dans un ensemble qui est, je ne dirais pas garanti dans tous ses détails, mais qui est dilatant parce que il respecte au maximum, j'allais dire, la réponse profonde à la question qu'on m'avait posée, c'est parce que Dieu respecte l'homme au maximum de sa nature humaine. Et que dans la nature humaine, il y a la réception et la progression. L'homme est docile, il est politique et il est social. Et donc, il faut qu'il progresse, il faut qu'il reçoive. Et c'est pas très marrant d'être prophète. Hein. Celui qui veut être prophète, c'est pas un rôle tellement enviable. Donc, il vaut mieux qu'il y ait 5 ou 6 prophètes et 9 milliards de croyants, plutôt que 9 milliards de croyants qui prophètes, qui en fait ne sont pas d'accord sur leur prophétie. Voilà. Bon, alors, ce qu'on va faire cette année, donc la dernière fois on a parlé de la possibilité de la révélation, donc on a montré qu'il n'était pas possible de montrer que c'était impossible, bon, c'est toujours très indirect, mais qu'est-ce que vous voulez faire, hein? On ne peut pas non plus supprimer le fait que c'est surnaturel, hein? Mais toutes les attaques, si vous voulez, sont vaines. Je suis frappé, là je viens de terminer un bouquin de Régis Debray, pour ne pas le nommer, alors qui est un gauchiste recyclé, enfin partiellement, enfin quand même une partie où il était recyclé. Et c'est vraiment frappant, parce que ce qui m'a, en formant son bouquin, c'est un bouquin sur la Terre Sainte, l'idée qui m'est restée, c'est le désespoir, quoi. Mais écrit par un type intelligent et bien écrit. Enfin, je vais pas vous pousser à lire le bouquin, parce que c'est peut-être pas la nourriture qu'il vous faut là maintenant. Sauf ceux qui ont l'esprit de contradiction, qui vont toujours voir les objections. Mais c'est assez intéressant, ce bouquin. Ça ressort un peu, il est un peu plus âgé que moi, quoi. Il doit être, oui, peut-être une dizaine d'années de plus. Donc il a une certaine culture, Et ce qui ressort de ça, avec une certaine comme nostalgie lointaine de l'Église, c'est quand même le désespoir, à mon avis. Le désespoir est quand même un faux. Lui, ce qui me frappe, c'est la contradiction. La contradiction, l'incohérence et tout. Moi, c'est drôle, dans le même problème, ce qui me frappe, c'est que malgré tout, il y a une lumière. Oui. Et malgré tout, il y a une certaine cohérence. Même dans le déroulement de l'histoire, c'est très mystérieux. Mais alors qu'on est les mêmes, on a à peu près une culture voisine, on ne voit pas la même chose. Donc... c'est quand même sympathique d'être catholique. Mais c'est une grâce qu'il faut payer cher, hein, parce que on n'a pas le droit de garder ça, on sera jugé beaucoup plus sévèrement que ceux qui ne le sont pas ou ceux qui ont pas reçu et tout. Hein. Donc aujourd'hui, il faut faire des démultiplicateurs de cathos parce que on est plus très nombreux. Alors on dit la qualité remplace la quantité. Bon, ça, je veux bien. Hein. Moi, je suis né en 49 et j'ai vu des époques où la quantité était là. Je n'ai pas été jugé si la qualité y était aussi, mais enfin, les souvenirs que j'ai sont quand même, j'ai beaucoup reçu de beaucoup de gens, mais disons qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont beaucoup de qualité, quoi. Bon, je sais pas. Mais en tout cas, non, ceux qui sont croyants aujourd'hui ont vraiment un devoir, chacun est apôtre à sa façon, mais au moins de s'intéresser à ça, oui. Au moins de dire, ah oui, mais c'est intéressant, même si on ne comprend rien, quoi. Mais on essaye de comprendre, quoi. C'est stimulant quand vous faites un truc, dire, ah mais oui, mais j'ai pas tout compris, mais quand même, il y a tel truc qui m'a. Ouais, parce que sinon, les gars qui ont à penser ou à prêcher, ils n'ont plus la pêche. Quand vous faites un article, si vous recevez une lettre pour d'encouragement, dites, ça veut dire qu'il y a 50 personnes qui sont contentes. Enfin, je ne sais pas, ça dépend des revues, mais c'est comme ça. Parce qu'il y a une solitude de celui qui communique. Enfin, je ne dis pas ça pour vous m'écrire. J'ai assez de morale. Mais je veux dire que c'est important, vous voyez, vous encouragez vos curés à étudier, à prendre du temps un lundi où ils bouquinent, où ils font une session de formation, etc. Et bon, et vous, là, au niveau où vous êtes, aussi acquérir la... la culture possible. Alors on va essayer donc dans ces deux cafés, ces deux premiers cafés cafés, possibilité et convenance, on l'a vu la dernière fois. Maintenant on voit la crédibilité cette fois-ci. Et dans ceux qui suivent, 3, 4, 5, 6, 7, on va beaucoup plus être sur le fait historique. Donc, est-ce que Dieu a parlé et qu'est-ce qu'il a, et où est-ce que je trouve ce qu'il a dit, quoi. Donc on verra, on va en détailler un peu en fin d'instruction là, ce qu'on dira sur l'historicité des évangiles, la preuve par les prophéties, la preuve par la doctrine, la preuve par les qualités intrinsèques enfin, du christianisme, et puis la confirmation de la preuve décisive, en quelque sorte par la résurrection. Avec une petite cerise sur le gâteau au mois de mai avec le sueur de Turin. Mais ça, c'est pour moi qui vous parlerai du sueur de Turin. Voilà. Alors, on va donc parler de la crédibilité de la révélation et des mystères de foi. Et ça, c'est une chose qui est très belle. C'est très belle, c'est une chose très belle qui aujourd'hui, alors ce que je vous dis, c'est une théologie qui n'est plus tellement enseignée dans les instituts catholiques et même dans d'autres maisons de formation qui pourtant devraient le faire, à mon avis, parce qu'il n'y aura pas de restauration, de redémarrage de l'évangélisation cohérente sans une restauration de l'apologétique. L'apologétique ou théologie fondamentale est très peu présente à Vatican II et totalement absente ensuite. Et ça, à mon avis, c'est pas sans relation avec la confusion mentale dans laquelle on se trouve actuellement et avec en particulier les déviations que ne partage pas Benoît XVI. Et évidemment, fonctionnellement, l'Église ne les a jamais adoptés, mais enfin, quand même, ça a été une vague, et ça l'est encore très largement, les déviations, je pense, sur le faux œcuménisme, par exemple. Si l'Église catholique n'est pas plus crédible que les autres, bah, laissez chacun à sa place, quoi. Et donc, le retour des Anglicans est un scandale pour des coyotes à foie jaune du type Hans Küng, jaune ou vert, je ne sais pas, je ne sais pas s'il comprend le français, si on veut, va lui passer ma bande, mais ce qu'il a écrit, une vraie saloperie, enfin, pour parler comme à l'Académie... Il y a 500 000 Anglicans qui vont revenir dans la plénitude de la vérité en union avec le Christ, et qui vont retrouver la validité du sacerdoce et de l'Eucharistie, et le titre d'Hans Küng, c'est que c'est une catastrophe. Si la vieillesse se mesure à la capacité de plus se mettre en colère, j'ai pas dû trop vieillir, parce que j'ai vraiment envie de l'étrangler. C'est absolument aberrant, quoi. C'est aberrant. Et ça, de quoi ça vient? Mais si vous dites, bah, attends, il n'y a pas... Toi, t'es anglican, bah, oui, moi, je suis catholique. T'attends ton témoignage vécu, concret, machin. Et toi, tu as quoi comme feeling, machin, tout? Bon, d'accord, ça va, dialogue, machin, peace and love et tout, bon. Mais alors, attendez, mais qu'est-ce qui a raison là-dedans? Si vous dites ça, bah, attends, non, c'est presque mal poli, quoi. Est-ce que c'est l'Église anglicane qui a succession apostolique ou est-ce que c'est l'Église catholique romaine? Est-ce que le Christ est Dieu, comme le disent les chrétiens, ou est-ce qu'il est qu'un prophète, comme le disent les musulmans? Bon, etc. C'est quand même un peu intéressant, non? Si ça ne vous intéresse pas, il y a un problème dans votre disque dur, hein, je ne sais pas. C'est vachement intéressant. Et c'est le vrai œcuménisme, c'est de travailler là-dessus. C'est ce qu'a compris Benoît XVI et puis ceux qui ont réussi à faire ce truc-là, qui est très beau. D'ailleurs, moi, je ne pensais pas que ça arrivait, parce que c'était en gestation depuis des années. Et je me disais, avec leur conception foireuse de l'œcuménisme, on ne va pas les recevoir. Parce que je connais des prélats qui découragent les orientaux, les catholiques, les chrétiens orientaux, de passer à l'Église catholique, au nom du faux œcuménisme. Et tout ça, ça vient du fait que le rapport de la raison et de la foi n'est pas bien mis en place. La raison nous montre que l'Église, que le christianisme est crédible, alors que ce qui n'est pas chrétien ne l'est pas au moins sur un point, pas sur l'autre, non. Et que dans le christianisme, le catholicisme est crédible, plus que réunit seul tous les signes de crédibilité, alors que les autres groupes, non. Et ça, c'est la raison. Et moi, comme agnostique, je peux en témoigner, parce que c'était ma position d'agnostique. Et le jour où je reconnais l'existence de Dieu, pop, je me retourne comme une crêpe, je suis catho, il n'y a pas photo pour les autres trucs. Ça, c'est ma position, et ce n'est pas une position tout à fait isolée. Hein. Parce que ça me paraissait, ça, historiquement, ça me paraissait une évidence. J'ai toujours beaucoup aimé l'histoire. Ça, je vous conseille d'étudier l'histoire, parce que c'est intéressant. Mais les historiens, aujourd'hui, il faut lire les anticonformistes, comme un certain nombre. Et moi, ça me paraissait frappant, quoi. À cause de l'histoire, à cause de la philo, à cause des sciences, à cause de plein de trucs. Bon, donc je crois qu'il faut qu'on revienne à une notion de la crédibilité. La raison a quelque chose à dire dans le chemin des hommes vers Dieu, et en particulier le choix de leur religion. Et ça va permettre, je crois, de remettre en place de façon juste. Il ne faut pas désespérer de la raison, il ne faut pas exagérer cette capacité, mais il faut savoir qu'elle peut nous donner des indications précieuses, et que même il est immoral d'agir sans ces indications. Un type qui est, enfin, je ne vais pas vous poser des cas trop difficiles, mais saint Thomas est extrêmement rigoureux là-dessus. Il faut absolument, on ne peut pas faire quelque chose, quelqu'un qui fait quelque chose dont il voit que c'est contre la raison naturelle, il pêche. Si c'est une matière grave, c'est un péché mortel. Et qu'ils soient croyants ou pas, c'est gravissime. Donc, vous voyez, il faut réhabiliter, je pense, on a un pape augustinien, saint Augustin disait « intellectum valde ama ». Aime beaucoup, comment traduire aujourd'hui, l'intelligence, l'esprit, ce que Saint-Exupéry appelait l'esprit, au-delà de la raison, etc. Cette source même de la raison. Enfin. Bon, mais il faut réhabiliter ça. Et c'est très dilatant, parce que c'est la faculté par laquelle nous communions avec la beauté, entre autres. Donc, c'est très intéressant. Alors, donc, on établit, vous voyez, donc... En théologie naturelle, donc c'est une partie de la métaphysique, difficile mais accessible quand même à la raison, on établit donc l'existence d'une cause séparée du monde, séparée, ce qui est très important, qui touche le monde bien sûr pour le créer, mais enfin qui, personnellement si j'ose dire, est séparée, distincte du monde, voilà, et cette source des choses leur communique ce qui est donc plus foncier qu'elle existait, donc ça c'est établi en métaphysique et... Cette réalité-là est une réalité personnelle qui a la vie, Aristote l'avait vu, mais qui a une vie personnelle et qui a donc une volonté, un amour, et bon, etc. Et donc tout ça, Satan va le reprendre dans le début de la somme de théologie, mais l'essentiel des démarches est accessible à la raison naturelle dans tout le début de la somme, parce que c'est vrai que la métaphysique, c'est le terme de la métaphysique. C'est difficile, mais enfin, c'est quand même des réalités. Alors, ceci étant établi, voilà. Et en tout cas, je dirais que de façon non scientifique, la plupart des hommes en ont au moins le pressentiment. Le pressentiment qu'il y a une source des choses, un créateur, et quand même peut-être une certaine justice. Je crois que ça c'est important si l'argument, si vous voulez, par la rétribution. La preuve c'est qu'ils ont mauvaise conscience. Pourquoi avoir mauvaise conscience? J'ouvre la porte d'un train, je pousse le gars dehors sans aucune raison, qu'on fait le crime gratuit, pourquoi aurais-je du remords? Je crois qu'on a quand même du remords, enfin essayez pas, mais je veux dire que... Et tout le monde, et même le truand qui a trahi la loi du milieu, il a du remords. Pourquoi? Il n'y a aucune raison d'avoir du remords. Et en fait, c'est quand même, c'est bon, c'est pas une preuve peut-être absolument rigoureuse, mais c'est un des indices les plus forts. Donc voyez, les gens ont cette notion-là. Alors maintenant, étant établi 1 et 2, la science et la véracité, la question donc va se concentrer sur le fait, est-ce que Dieu a parlé? Dieu n'était pas obligé de parler, mais de fait, on va voir, il a parlé. Et qu'est-ce qu'il a révélé? Et c'est les deux choses qui nous intéressent. Est-ce que Dieu a parlé? C'est émouvant rien qu'à ce stade de la formulation. Oui. Que Dieu puisse me parler, c'est ce que n'ont jamais admis devant me parler dans un langage qui me soit accessible. Pas uniquement par des locutions substantielles, décrites par Saint-Jean de la Croix en particulier, mais qui soient accessibles et communicables. C'est comme inouï, vous voyez, dans l'évangile de Saint Jean, vous avez Dieu, personne ne l'a jamais vu, mais le Fils unique de Dieu, qui est tourné vers le sein du Père, lui, il est venu parler à son sujet. Et il parlait, enfin, en araméen, ou en grec, ou en hébreu, mais et ensuite on a noté, on a retenu, on a transmis. Donc c'est quand même hallucinant de penser ça. Vrai. Si vous dites ça à un bouddhiste, si vous tombez sur un bouddhiste qui n'est pas athée, enfin qui ne se dit pas athée, il va être étonné, quoi. Et même pour des grands esprits de l'Antiquité, le fait que Dieu puisse s'intéresser à l'homme à tel point qu'il lui adresse une parole, et Dieu parle entre eux sur l'Olympe. Enfin, du moins, c'est le mythe qu'on maintient pour... Mais c'est vrai que la communication entre... L'amitié entre l'homme et Dieu est toujours... entre Dieu et l'homme est toujours tragique parce qu'elle est sacrilège, quoi. Alors qu'un Dieu puisse me parler, c'est quand même assez bouleversant, oui. Je ne dis pas ça pour faire dans le mièvre, hein, parce que moi, je ne trouve pas ça du tout mièvre. Je trouve ça plutôt terrifiant, oui, la révélation sur l'Horeb. Ah ben, Moïse, il balise, comme on dit à l'armée. Quoi. Il tire ses godasses, c'est le lieu saint, le buisson ardent, tout ça, un nom incompréhensible. Alors, très utile pour les métaphysiciens, mais les historiens lui donnent un autre sens, je suis qui je suis. Bon, moi, je crois ça dire, je suis celui qui suis. Mais enfin, ça donne lieu après des tas de trucs, et c'est vrai que c'est... Il y a un philosophe français qui s'appelait Étienne Gisson, qui était fasciné par cette révélation de Dieu, du nom de Dieu, quoi, qui le désigne le moins improprement. Bon. Mais que Dieu puisse dire ça, c'est quand même... C'est un peu écrasant et c'est emballant en même temps. Quoi. Et directement, il n'y a pas un panthéon intermédiaire, même si vous étudiez un peu les divinités enfin, telles que les voient les hindous, etc. Il y a un ensemble de médiations tellement compliquées qu'on s'y perd. On sait qu'il n'y a même pas le nombre de divinités qui existent. Quoi. Ouais. Et chez les gnostiques, c'est des éons qui s'émanent les uns des autres. Mais Dieu ne touche jamais, si vous voulez, parce qu'ils considèrent que ça serait trop bas. Quoi. Donc voilà. Alors, est-ce que Dieu a parlé? Alors là, ça va se résumer à ceci, à voir si les mystères de foi qui nous sont proposés, bon, ce que dit le Christ dans l'Évangile, ils ont une aptitude à être crus. Et pourquoi vont-ils avoir cette aptitude? Parce qu'il y a des signes certains. Ça, cette notion de signe, on y reviendra, parce que ce sera le but des prochains cassés, d'en montrer quelques-uns, comme les prophéties, les miracles. Il y a des signes certains, et par ces signes, donc vous voyez, le signe, c'est un beau mot, hein, ça nous renvoie à autre chose. Est-ce que Dieu a fait des signes qui nous renvoient à sa parole, au fait qu'il est en train de parler? Des signes qui sont faits pour accréditer qu'il est en train de parler. Alors, s'il y a ça, alors notre raison, vous voyez, peut dire oui, ce serait raisonnable de croire. Il est raisonnable de croire plus loin. La conclusion de l'enquête apologétique, c'est bon, on voit ça, on voit ci, on voit ça, et bien après, en effet, ces choses-là ne peuvent pas être faites par les hommes, ce sont des signes d'une puissance surhumaine qui indique que ça vient de Dieu, ça désigne un homme qui a dit qu'il était Dieu, donc on n'est pas contre la raison, il serait même raisonnable que j'affirme cet homme est Dieu. Mais là, on va voir, il y a un saut à franchir que ne peut être franchi que dans la foi et pas la conclusion de ce syllogisme. Ce syllogisme prépare à la foi. Ce syllogisme apologétique se termine sur le fait que la foi est crédible. Et ça, Pascal a beaucoup insisté là-dessus. La foi est crédible, c'est-à-dire que la foi, si vous voulez, nous porte le regard sur quelque chose qui est vraiment un mystère surnaturel, essentiellement la Trinité et la divinité du Christ. Pour Pascal et pour Journet, il faut centrer tout sur la divinité du Christ. Parce que quand on a enlevé ce morceau-là, tout le reste va suivre. Et de fait, c'est un peu ce qu'on va faire dans le père Lagrange, je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui, c'est le fondateur de l'école biblique de Jérusalem. Il disait, la chaîne apostolique, c'est les prophéties, la doctrine du Christ, et ses miracles. Parce qu'en fait, vous apercevez que si vous avez les trois choses, les prophéties disent, il y aura un Messie qui va venir, donc il ne tombe pas comme les cheveux sur la soupe, il ne s'auto-proclame pas, il réalise quelque chose, il est la loi parfaitement, etc. Donc les prophéties, sa doctrine qui est sublime, on le verra, donc très émouvant déjà, donc ça c'est déjà très fort, et qui en plus contient le fait qu'il s'attribue des prérogatives divines, et les miracles qui sont faits pour appuyer sa doctrine. Et donc si vous avez cette chaîne, prophétie, doctrine du Christ et miracles, vous avez vraiment la grande démarche apologique. Et en fait c'est assez simple, mais c'est quelque chose de très beau, parce que les prophéties, on verra, bien qu'elles soient aujourd'hui très discutées, jouent un rôle important pour ne pas nous prendre en traite, si vous voulez, pour que vraiment les choses se passent le plus humainement possible. Et alors Pascal dit, vous voyez, Pascal n'a pas eu le temps de rédiger, il est mort trop jeune, il n'a pas rédigé son apologie, mais il y a tous ces petits fragments, bon, dans lesquels il a mis les idées qui lui passaient par la tête. Et il insiste beaucoup sur le fait que un grand signe, si vous voulez, le premier signe, il est moins fort spéculativement que les autres, mais il est presque plus fort affectivement. Un grand signe apologétique, c'est la réalisation de la personne. C'est-à-dire que la foi est dans la ligne de ce qui va me construire, le rejet de la foi est dans la ligne de ce qui va me détruire. Et ça, je peux vous dire que c'est une chose extrêmement forte au point de vue. Bon, l'expérience pastorale, moi j'ai 32 ans de sacerdoce, donc j'ai vu quand même un petit peu des gens, hein, des convertis, et puis bon, je l'ai expérimenté moi-même, c'est extrêmement fort. Parce que c'est très fondamental, vous voyez. Par exemple, Pascal dit, vous savez, un des grands arguments de Pascal, c'est de dire que le libertin, vraiment l'agnostique, le moderne qui ne s'occupe de rien actuellement, eh bien, il ne peut pas être de bonne foi. Donc, vous voyez, il y a quand même une apologétique de l'inquiétude. Aujourd'hui, on est plutôt dans l'apologétique du chewing-gum, de la gélatine, de la peace and love, dormez tous en paix, on va tous au ciel. Ouais, ça je l'ai déjà dit, bon. Mais etc. Donc, cool. Et moi, je dis, attendez, réhabilitons l'apologétique de l'inquiétude. Mon père, vous me faites peur. Ben oui. Qu'on disait à Saint-Augustin, il disait, mais je suis le premier à avoir peur, quoi. Et aujourd'hui, les gens ont plus peur de rien. L'enfer, il est vide, jugement, il n'y en a pas, on est tous sauvés, machin, bidule. Attendez, balisez un peu, les gars, parce que vous verrez, comme disait le curé d'Ars, un gars qui se moquait du feu de l'enfer. Il disait, ben vous verrez quand vous y serez, quoi. Donc, c'est une apologétique d'un peu frustre, mais je trouve qu'elle a du bon. Hein. Parce qu'elle est vraie, quoi. Le mec, ça va être dans les camps de concentration. Moi, pour des raisons personnelles, je me suis un peu intéressé aux situations limites de ce type-là, hein, prison et compagnie. Je peux vous dire que les mecs, là, ils sont un peu moins rationalistes qu'à leur bureau, et avec leur fric, leur compte en banque, et tout ça. Quand les bombes tombent sur le camp, et vous voyez à genoux des mecs, les bras en croix, même si avant ils étaient plutôt rationalistes. Parce que là, il y a la confrontation, c'est le moment décisif, quoi. Tu veux choisir pour Dieu ou contre Dieu. Donc bon, Dieu se sert aussi de ces instants d'inquiétude pour faire revenir au vrai. Et très souvent, d'ailleurs, c'est un des sens de l'épreuve. Hein. comme les gens sont bouchés à l'émoïe, ben, quelquefois, il faut que ça cogne dur. Quoi. Et donc, eh ben, c'est évidemment, c'est assez pénible. Je dis pas que c'est... Attendez, je suis pas en train de faire une justification sadique. Hein. Vous allez me dénoncer à la SPA. D'ailleurs, j'ai fait un article là sur les taureaux qui m'ont voulu faire des dénonciations à la SPA. Mais bon, fermons la parenthèse. Ça, c'est pour vous abonner à la revue. Là. C'est des Sapientiers. C'est tellement bas le prix que je vous dis pas. Quoi. C'est honteux. Mais bon, mais non, mais attendez. Mais je veux dire que parfois, il y a des épreuves qui vraiment permettent d'ouvrir le cœur parce que... Mais alors, l'argument de Pascal, c'est de dire, écoutez, ayez peur, parce que vous foutez du monde. Il les connaissait bien. À l'époque, donc, c'était les aristocrates, donc ils n'avaient rien à faire. Il n'y a plus d'aristocrates, sauf ceux qui n'ont plus de portable, quoi. Comme moi. Donc, une toute petite minorité, moi. C'est l'aristocrate, c'est le gars qui a du temps. Maintenant, c'est le contraire. L'aristocrate, c'est le gars qui en a plus. Moins il en a, plus il est haut dans la hiérarchie. Quoi. Bon, il pique le passage pour rigoler. Mais, voilà. Alors, donc, il disait, mais vous foutez rien, vous dites, voilà, ce repos dans cette ignorance est une chose monstrueuse. Et dont il faut faire sentir l'extravagance et la stupidité à ceux qui y passent leur vie. Alors, ils croient avoir fait de grands efforts pour s'instruire lorsqu'ils ont employé quelques heures à la lecture de quelques livres de l'écriture. Attendez, ça c'était du temps de Pascal, hein. Maintenant c'est quelques minutes à recevoir un SMS d'un cateau, quoi. Maximum, hein. C'est encore pas trop. Bon. Et qu'ils ont interrogé quelques ecclésiastiques, bon on les voit plus maintenant, plus interrogés, non. Enfin, devinez qui était ecclésiastique, sur les vérités de la foi. Après cela, ils se vantent d'avoir cherché sans succès dans les livres et parmi les hommes. Ça, c'est fort, c'est très Pascal. J'ai cherché sans succès. Attends, arrête. T'as rien cherché du tout pour faire une thèse, tu bats pendant 10 ans. Maintenant, c'est 30 ans. Pour éviter le suicide, mais la thèse d'État, c'était 10 ans ou 15 ans. Et parfois, le divorce à la clé, parce que Bobon en avait marre. Et ils trouvaient des trucs, les gars. Mais attendez, chercher, c'est autre chose que ça, hein. Et alors, justement, toute la mise en scène de Pascal, qui est plus qu'une mise en scène, c'est de dire, bon, si on fait ça pour des petites choses, pour les grandes choses, a fortiori. Mais alors il dit, bon, si tu vas dans cette direction-là, alors lui il pousse presque la chose un peu, qui pourrait peut-être même poser des... On pourrait penser qu'il dit aux gens, bah fais ça parce que c'est intéressant, ça devrait apporter quelque chose. Non, je crois qu'il faut le voir comme le voit Journet, c'est-à-dire que dans la ligne de la foi, la raison se construit. Et le reste aussi. Ça c'est très important, oui. Si on va dans la ligne de la foi, et si vous n'y allez pas, vous êtes obligé de dire, mais vous arrêtez le discours de Logos, oui. Mais si vous parlez, c'est assez typique quand vous parlez avec des gens, vous sentez si les questions sont des pièges, enfin il faut essayer de le sentir en vieillissant de plus en plus pour écourter les bavardages inutiles, si c'est des pièges ou si c'est que le gars cherche vraiment, quoi. Habituellement, on vous aborde sur le préservatif et l'inquisition, hein, devant les grands best-sellers, numéro 1 préservatif, numéro 2 l'inquisition. Vachement intéressant. Moi. Et mais alors, il faut sentir si le gars c'est une question de piège ou si bon, après on peut aller plus loin. Hein. Voilà. Et donc, là, je crois que Journet est. Et Pascal insiste beaucoup sur le fait de dire, vous voyez, il y a un signe de crédibilité, c'est plus je vais à réfléchir dans l'hypothèse, vous voyez, de la vérité de la révélation chrétienne, plus il y a quelque chose en moi qui se met en place, hein, qui se construit. C'est raisonnable, ça va, bon, il y a des choses agaçantes, il y a surtout beaucoup de choses très énervantes dans l'Église, hein, mais ça fait rien, il y a beaucoup de difficultés, mais c'est pas forcément, ça fait pas forcément des objections. Oui. Tandis que si je dis non, ben je reste quand même très insatisfait. Parce que soit je vais vivre au niveau du libertin, c'est-à-dire au niveau non métaphysique superficiel, donc je ne résous rien, soit je vais m'engager dans une voie qui est ordinairement celle de l'absurde. Peut-être vous en rendez moins compte aujourd'hui, si, je ne sais pas. Enfin, de mon temps, c'était ça, quoi. C'était Sartre et Camus, enfin Camus, il a de la classe. C'était quand même, bon, maintenant, c'est encore pire. C'est un absurde tellement absurde qu'on ne se rend même plus compte qu'il est absurde, je ne sais pas. Mais c'est vrai que ce n'est pas une construction, vous voyez. Et donc là, je crois qu'il y a un signe apologétique très, très sensible. Il le dit d'ailleurs Pascal quand il parle à ses amis. Or, quel mal vous arrivera-t-il en prenant ce parti? Vous serez fidèle, honnête, humble, reconnaissant, bienfaisant, ami sincère, véritable, etc. Donc c'est vrai qu'il y a quand même des avantages. Alors, regardons cette histoire de crédibilité. Vous voyez, c'est un signe qui montre que le mystère est digne d'être cru de foi divine. Un message, vous voyez, tac, voilà, ça vient de Dieu. Donc, tu peux ouvrir ton cœur à la lumière donnée par Dieu. Donnée par Dieu. Alors, le prophète, lui, ça c'est une chose très importante parce que c'est une condition que l'Église considère comme nécessaire pour que l'acte de foi soit humain. Oui. Faire un acte de foi sur quelque chose qui n'est pas crédible, c'est faire une imprudence. Ça, on étonne quelquefois les cathos quand on... C'est la foi du charbonnier, c'est une connerie, excusez-moi. D'abord, c'est les gens qui vous parlent de la foi du charbonnier, habituellement, ne sont pas charbonniers. Bon, pour charbonnier, on peut peut-être discuter, quoique... Lui, il a ses signes de crédibilité à lui. Hein. Je suis assez frappé. Chacun aussi, c'est en fonction de son tempérament, de son histoire. c'est pas des trucs irrationnels qui sont dans son banc. Mais pour celui qui n'est pas charbonnier, il faut une... Et moi j'ai prêté le serment antimoderniste, malheureusement ça a été supprimé par Paul VI. Et c'est une des mauvaises choses qu'a fait Paul VI. Enfin, un petit coup de polémique comme ça. Et ça, ça fait pas partie des enseignements les plus importants de mon cours. Mais enfin, à mon avis, c'est bien serment antimoderniste. En second lieu, j'admets et je reconnais les arguments externes de la révélation, c'est-à-dire les faits divins, parmi lesquels en premier lieu les miracles et les prophéties, comme des signes très certains de l'origine divine de la révélation chrétienne. Ça a été repris, on verra, dans le catéchisme de l'Église catholique. Et ces mêmes arguments, je les tiens comme parfaitement proportionnés à l'intelligence de tous les hommes de tous les temps, même du temps présent. Même si on considère qu'on a un peu diminué ou augmenté depuis vite, ça fait rien, ça marche quand même. Oui. Donc c'est une condition nécessaire, parce que, vous voyez, pour aller loin dans l'espace intergalactique ou interamas de galaxies, hein, il faut qu'il y ait une raison, enfin qu'on sache qu'on va arriver quelque part. Hein. Et donc là, la foi, c'est pas un saut dans... Enfin, certains s'imaginent que la foi, c'est un saut dans l'absurde, c'est pas des choses bizarres. Quoi. Moi, ça me paraît exactement le contraire. Un jour, ici au Café Caté, c'est un gars qui était agnostique, mais il m'a dit, pourquoi vous avez choisi le catholicisme ? J'ai réfléchi quelques secondes, j'ai dit, parce que c'est là où j'ai trouvé le plus de raisons. Bah, je suis peut-être un peu provocant, mais je crois que, enfin, personnellement, moi, c'est mon chemin. Vraiment. C'est là où j'ai trouvé le plus de cohérence, si vous voulez. Pas trouvé la solution de tout, bien sûr, c'est pas au mot, là, plus blanc, et des sectes plus performantes sur je sais pas quoi, bon. Hein, mais c'est quand même qui est vraiment dans l'harmonie, j'ai vraiment, je crois que c'est et, non, dans l'harmonie spirituelle, donc raisonnable. Voilà. Donc c'est une condition nécessaire. Alors, il faut voir comment elle est vécue, cette condition. Le prophète, lui, il a comme une évidence directe. Hein. Il a la lumière prophétique, hein, et Dieu fait en lui des effets. Bon, peut-être qu'il peut vraiment faire des miracles par lui pour lui prouver que c'est bien lui, Dieu, qui agit, mais il fait en lui des effets qui fait qu'il n'a aucun doute. Il sait qu'il est en train d'agir sous la motion de Dieu. Alors, je ne peux pas en dire beaucoup plus, parce que ça n'est jamais arrivé. Hein. Mais voilà, on le voit bien dans les paroles du Seigneur. Alors le gars, il devient un peu aliéné, si vous voulez. Hein, les prophètes, c'est des gars un peu folklore. C'est assez intéressant parce qu'en Israël, ça maintient l'ambiance. Quoi. Quand vous avez que des légistes avec la barbe, les phylactères, le machin, la Torah, j'allais pas dire un gros mot parce que sinon il y a la Licra et compagnie qui vont tomber dessus, mais la Torah toute seule et interprétée à couper, ça finit par être un peu lassant. Vous voyez, comme je vieillis, il y a des mots très modérés. Mais donc c'est vrai, on tombe dans un juridique, c'est magnifique la Torah, mais elle est animée de l'intérieur par le souffle des prophètes ou elle est matérialisante. Ou elle est même raciste, elle est même... Vous voyez, c'est un vrai problème. La Torah, sans le souffle prophétique, et sans l'ouverture sapientielle, donc sans les grands livres de la sagesse, hein, et sans le souffle des prophètes, elle est grave, quoi. Enfin, si j'ose dire, enfin, pas par elle-même, mais les gars qui la vivent risquent d'être graves, quoi. Et malheureusement, on en voit des exemples qui se terminent assez mal, quoi. Parce que c'est très matérialisant, et vous avez des choses à faire. Il y a des éléments contemplatifs dans la Torah, bien entendu. Mais genre, pour lire la Torah, c'est les cinq premiers livres de la Bible, hein. Pour la lire à son niveau le plus nourrissant, il faut avoir la sagesse derrière, les livres de la sagesse, Ecclésiastique, Proverbe, etc., les psaumes, en un sens, bon, Cantique des Cantiques, et puis les prophètes, ou Jérémie qui vous dit j'écrirai la loi dans ton cœur. C'est quand même sympa, quoi. C'est pas uniquement des phylactères qu'on porte là, dans des petits trucs, c'est pas mal, ça. C'est pour montrer qu'il est près du cœur, donc on porte les principaux commandements, bon. Mais si c'est pas en même temps dans le cœur, avouez que. Il y a quand même quelque chose de moins satisfaisant. Je ne dis pas que c'est mauvais, que c'est nul, hein, pas du tout, mais vous voyez, c'est vraiment ces deux Christ qui a résolu cette équation, quoi. Torah plus prophète plus sagesse. Hein. Donc c'est quelque chose de très beau. Et donc le prophète, vous voyez, donc il est là, il ramène l'ambiance, en disant, ah, Dieu dit ça, ça, ou alors ils font des trucs, ils font un trou dans le mur, ou ils se coupent la barbe, ils font des trucs absolument fantastiques, ils descendent dans la flotte, ils ressortent, et puis c'est marrant, de toute façon, ils osent les toucher. Enfin, si en général, pour quelques-uns, à la fin de la carrière, ça se passe mal. Sur ça, je vous dis, c'est pas très intéressant d'être prophète. Mais ils sont tellement. C'est tellement évident que Dieu, par exemple, Jean-Baptiste, il n'a fait aucun miracle. Tout le monde court après, y compris les pharisiens, qui n'ont jamais osé contredire Jésus là-dessus. Parce que c'était tellement, si vous voulez, hallucinant, quoi. Il avait une telle pêche, si vous voulez, que tout le monde allait dans son trou désagréable, là où il y a des tas de moustiques, enfin, en été, du moins. Mais on allait parce que c'est dit, il baptisait les gens et tout, et les types demandaient des leçons pour la morale militaire, la morale ceci, tout ça. C'était le gars avec son truc, là, il bouffait ses grosses sauterelles, son miel sauvage. C'est pas vrai, le miel sauvage, mais enfin, ça fallait bien avoir un peu moins. Mais enfin voilà, donc là, et c'est ça, c'est une attitude très curieuse parce que Israël est le seul religion, enfin me semble-t-il, devant celle que je connais, dans laquelle la prophétie est institutionnelle. Ça a été. que malheureusement était, vous voyez, c'est-à-dire que voilà, il y a la révélation de Moïse, puis il y a les prophètes. Les prophètes, ils arrivent ben, quand on ne sait pas. Ouais. Et sur ça, du temps de notre Seigneur, on s'ennuie et ferme, il n'y a plus de prophétie. Quoi. Hein, donc la Samaritaine est contente d'en avoir un sous la main pour lui poser des questions techniques sur l'adoration, le garizim. Voilà. Alors donc voilà, le prophète, lui, il a cette attitude physique, vous voyez, que Dieu lui parle, c'est tout. Donc lui, il a, si vous voulez, il a dans un effet naturel, que Dieu fait en lui ou à l'extérieur, la certitude physique que c'est Dieu qui lui parle, et donc il va adhérer au mystère. Évidemment, ce qu'il va voir, lui, ça sera un effet naturel. Hein, il va être galvanisé, il va avoir une lumière intérieure, il va savoir ce qu'il faut dire. Daniel commençant à parler sur les quatre bêtes, dont on voit que ça colle très bien avec les quatre principaux empires et tout, il fallait quand même le faire. Hein. Imaginez, bon, l'assyro-babylonien, les médo-persiques, les grecs, les latins, etc. Ben, le gars, si c'est... c'est non vero et ben trovato, hein. Si c'est pas vrai, c'est bien trouvé, le gars. Essayez de trouver ça, vous, demain matin, de votre base. Hein. Et ça m'étonnerait que ça soit, on a beaucoup d'exemples à votre prophétie des quatre empires. Parce que chaque fois qu'on en fait une, il y en a un qui commence à discuter la fin de l'histoire, le choc des civilisations, machin, ça. Il y a des éléments vrais, mais on, à 10 ans près, on se gourre, quoi. Enfin, moi, l'adversaire dit, vous êtes gourré, quoi. Tandis que là, c'est, le truc de Daniel, ça quand même, marche quand même très bien, hein. Alors donc, vous voyez, le prophète, il a cette certitude. Donc pour lui, bon, il a du mérite, parce que, bon, il adhère à un mystère qu'il ne voit pas à cause d'un effet qu'il ressent en lui-même. Mais ensuite, il va parler aux autres, et éventuellement faire des miracles. Et les autres, bon, non, ceux qui sont là, vont voir, si vous voulez, vont voir physiquement, enfin, ceux qui ont vu les miracles de notre Seigneur, ceux qui ont vu les miracles des prophètes de l'Ancien Testament, ben, il y avait une certitude extrêmement forte. C'est-à-dire, tous les apôtres sont des gens qui étaient des témoins directs de ce qu'a fait le Christ. Ils sont morts jusqu'au bout du monde pour témoigner, j'ai vu des miracles qu'un homme ne peut pas faire. Et cet homme disait, je suis Dieu, etc. Voilà. L'Église est fondée sur ces gars-là. Bon. Et alors ensuite, ils ont parlé, ils ont écrit des bouquins, où ils ont chatché avec Saint Polycarpe, Saint Irénée, machin, je crois qu'il y a le Barbarin. Mais... Et donc, ils ont chatché, donc c'est au colon, le grec, c'est comme un truc qu'on arrive à apprendre. Et donc, on sait ce qu'ils ont dit. Et donc, ils disent en substance, ça fait que se développer, mais c'est... En substance, le message est dès le début. Voilà. Et donc, nous qui recevons ça, nous avons une certitude morale, historique. C'est pour ça que c'est très important, de manière que l'histoire arrive à la certitude. Parce que si vous démolissez la certitude historique, vous démolissez les évangiles. Et donc, la crédibilité rationnelle de la foi. Donc, nous recevons le témoignage historique certain des évangiles et de la tradition qui les véhicule, qui les entoure et qui est parallèle. Et de gens qui, eux, ont eu véritablement le contact direct avec les miracles. Puis en plus, il y a d'autres miracles qu'on verra quand on parlera de l'Église. Donc vous voyez, il y a une gradation de certitude. Il y a le prophète qui a cette certitude physique. Il y a le témoin qui a une certitude directe. Et puis nous, qui avons une certitude véritable, mais médiate. Et on retrouve ce rôle médiatisant des hommes les uns par rapport aux autres. Et c'est bien comme ça. C'est bien comme ça. Ça se présente bien. Ça permet à l'Église de se développer sans trop de fondamentalisme. Oui. Parce que quand vous avez un prophète à vie, même à éternité, ça pose vraiment des gros problèmes. Je ne crois pas qu'il y ait de religion qui a un prophète à vie avec son enseigne. Et quand il y en a une, en général, il se fait rapidement arrêter par les flics. Parce que ça fait des embouteillages, donc c'est vraiment des problèmes techniques. Alors voilà, donc le syllogisme apologétique, tout ce qui a été révélé par Dieu est vrai et doit être cru. Vous voyez, ça c'est ce qu'on appelle la grande proposition, la majeure, disent les logiciens. Donc voilà, tout ce qui est révélé par Dieu est vrai. Ça, c'est de la métaphysique, c'est du bon sens. Et doit être cru, parce que précisément, si Dieu me parle, c'est pour que mon cœur reçoive. Et sous-entendu, déjà, vous voyez qu'il y a déjà un peu de volonté là-dedans. Enfin, du moins, la volonté va nous aider à bien recevoir, parce que le démon, dès le début, il a dit non, c'est pour ton mal, là, l'histoire de l'arbre, le bien, le mal, la pomme, la pomme, c'est pas une pomme, mais l'arbre de vie, le truc. Il met le doute, vous voyez. Alors que si Dieu parle, c'est nécessairement pour faire croire, parce que Dieu n'a rien à craindre de l'homme. Vous voyez là. Et le démon, c'est vraiment le diviseur, quoi. Mais la révélation est pour l'accroissement de l'homme. Alors le rationaliste, c'est exactement une confusion totale. Il croit que nous, du fait que nous avons la révélation, nous diminuons l'homme. Et j'étais frappé parce que dans le bouquin de Debré, là, qui s'est terminé, il y a certains passages qui disent, ah oui, il y a ceux qui ont la foi, se privent d'eux. Alors il écrivait une petite joie, que je ressens, moi, tout à fait, une petite joie de nostalgie, du temps passé, de je sais pas quoi, de machin, des petits trucs assez humbles, un peu poétiques et tout. Je dis, mais il plane, le mec. Je dis, nous, on l'a encore, même encore plus, parce que bon, on sait qu'elle est passagère, mais en même temps, elle est écrite dans la mémoire des anges. Enfin, on a des harmoniques surnaturelles aux joies naturelles. Enfin, bon, donc on ne se prive pas des joies naturelles. Alors, donc, ça, c'est vrai, ça doit être cru. parce qu'il est raisonnable, vous voyez, il est dans la loi naturelle de recevoir ce que Dieu peut nous dire au-delà de la loi naturelle. Ça, c'est aussi extrêmement important. Parce que c'est vrai qu'il y a un péché indirect contre la loi naturelle dans le refus de la révélation. Vous voyez, il faut faire attention parce que aujourd'hui la tendance est d'excuser un peu tout le monde sur tout. Alors certainement, on ne peut pas juger aucun cas individuel. Mais il y a des refus, et ces refus s'enracinent quelquefois dans des déviations naturelles. La fermeture du cœur, l'attaque de la vérité connue, le désir de, plutôt que ce soit moi tout seul qui ai un système qui marche, plutôt que de recevoir un truc qui est partagé par d'autres, etc. Toutes ces choses-là, ça existe, c'est des déviations naturelles. Or, Dieu a révélé par le Christ les vérités de foi que l'Église catholique enseigne. Vous voyez la chaîne, hein? Donc Dieu, l'existence de Dieu, la divinité du Christ, et la catholicité de l'Église qui nous présente les vérités. Simplement, c'est une présentation. Hein. L'Église, c'est un porte-livre, si vous voulez. Enfin, c'est un peu plus que ça. Parce qu'elle écrit sur le livre aussi pour nous faire comprendre entre les lignes. Elle écrit pour nous expliquer les lignes de l'Évangile. Mais bon, c'est quand elle nous présente l'Église, si vous voulez, c'est à la fois très important et très. C'est un serviteur. Hein. Elle présente l'objet, ce sur quoi mon regard tombe, et à cause de la lumière de Dieu qu'il y a dans mon cœur, je vois la Trinité. Enfin, je la vois pas, mais je la touche, je m'unis à la Trinité, à la divinité du Christ, etc. Mais heureusement qu'il y a l'Église pour bien m'expliciter ça. Donc en fait, vous voyez, la foi arrive, disons, quant à la nature des choses, au bout de ce chemin, elle peut arriver avant. Hein, bon. Mais bon, là on réfléchit comment les choses fonctionnent selon leur structure, hein, mais elle n'est pas une conclusion, ça c'est très important. La foi est un don gratuit qui est donné parce qu'il ne suffit pas de dire oui, si Dieu parle, il faut croire ce qu'il dit. Après, il faut dire moi, je dois croire. Et cette application moi, mais se rentrer totalement dedans, là, ça suppose une grâce qui est au-dessus des forces. Parce que ça suppose que nous, on bascule dans un univers qui est au-delà de nos prises, quoi. Vraiment au-delà de nos prises. L'univers de la Trinité, de la divinité du Christ. Hein. Donc. Il y a une crédibilité, bon, rationnelle, mais est-ce que moi je vais donner ma foi ou pas? On ne peut être retenu par des choses très mystérieuses. Alors faites attention dans l'apostolat, parce qu'il ne faut pas. Il faut essayer, dans la mesure du possible. Il faut sentir si vous avez la bonne foi ou la mauvaise foi, mais si vous ne savez pas, il faut prêter la bonne foi. C'est-à-dire qu'on ne sait pas où la personne est dans son chemin, vous voyez. La grâce est nécessaire au salut. Dieu veut le salut de tous les hommes. Donc Dieu donne à tous les hommes des grâces actuelles qui les mèneraient, s'ils sont fidèles, jusqu'à l'adhésion de la foi. Ça, c'est à mon avis théologiquement absolument certain. Mais où en sont-ils du chemin? Et le gars qui vient d'être scandalisé, je crois que c'était, on dit que c'était le cas pour Heidegger, par exemple, dans son rapport au catholicisme, pas vraiment un scandale très scandaleux, bon, commis par un catholique. On dit ça, je sais pas, j'ai pas étudié sûrement les âmes, mais imaginez que ça, c'est pathétique d'ailleurs, parce que il y a quelque chose de pathétique chez cet homme-là. Hein. C'est un très grand esprit. Bon, mais alors, vous voyez, on sait pas où est-ce qu'il en était de son chemin. Vous voyez, le gars qui sort de ça, donc, c'est Charles Maurras à qui il disait, écoutez, bon, je veux pas faire une apologie de ses positions politiques, hein, mais c'est comme son cas comme agnostique est intéressant, il a perdu la foi, donc coupablement, à mon avis, parce que. C'est aussi défini qu'on ne peut pas perdre la foi quand on l'a reçue sous le magistère sans péché personnel. C'est ça pour vous faire peur un peu. Et si on a vraiment reçu la foi, bon, donc il l'a perdue. Mais après, pour la retrouver, il disait vers la fin de sa vie, il disait, mais écoutez, je ne peux pas dire que je vois quand je ne vois pas. Et finalement, bon, il a fini non pas par voir, mais par entendre, puisque à la fin de sa vie, il a dit, pour la première fois, j'entends quelqu'un venir, parce qu'il était sourd, c'était à sourd. De sa révolte aussi, il ne pouvait pas être officier de Marie, parce qu'il était sourd. Mais grâce aux prières de Carmel de Lisieux, il a entendu le Christ venir. Et donc il s'est endormi, nous l'espérons, dans les bras de l'espérance et de l'amour, comme il l'a chanté lui-même dans des poèmes très beaux. Bon, enfin voilà, on ne sait pas où les gens sont. Donc il ne faut pas trop leur dire, mais écoute, bon, mais attends, mais quand je t'ai montré ça, mais tu as... Bah, Kevin, c'est incroyable, mais t'es de mauvaise foi, mais c'est incroyable. Tu sais pas lire, quoi, ou quoi? Non, attendez, il faut être un peu plus... Il faut, bon, c'est pas évident, c'est pas... Si on est un peu punchy, ce qui est pas difficile de se retenir. Mais je crois que ça, c'est le Saint-Esprit qui peut vous aider. Puis si vous sentez que c'est pas que cette personne-là n'est pas vraiment votre profil, tâchez de la refiler à un autre vendeur mieux, qui a une casquette plus appropriée. Non, parce que c'est l'art des arts. Hein. L'apostolat, c'est comme le gouvernement des âmes. C'est quelque chose de très intéressant. Et vous avez tous à faire ça. Si vous êtes confirmé encore plus, si vous êtes baptisé, vous devez le faire. Et c'est vraiment très intéressant. Parce qu'avoir une parole une conférence que vous avez assistée, un bouquin que vous avez passé, une incitation, une réflexion, une aide dans la difficulté à quelqu'un, vous voyez, qui... Et en plus, chacun a des critères apologétiques qui sont différents les uns des autres. Donc, vous voyez, la foi n'est pas la conclusion de ce syllogisme, c'est la grâce qui va nous donner la foi. Et donc, évidemment, la prière est en amont. L'apologète catholique sait qu'il est aidé par la prière des contemplatifs et que, peu à peu, la grâce pousse cette personne dans la voie où, en même temps, elle sent se reconstruire humainement. C'est assez frappant pour l'évolution de Foucault, Charles de Foucault. Donc, il s'est complètement bousillé dans les conneries majusculaires, etc. Et puis, qu'après, qui est passé par le vide, quoi. Et qui a été reconstruit, en particulier par l'espérance du désert. Et du contact avec l'islam, dans sa dimension bonne, si vous voulez. Les gars qui croient et qui publiquement prient. Hein, il n'est pas le seul, il y a Psychari, quelques autres. Enfin, je le signale, hein. Parce qu'il ne faut pas non plus reprocher à l'islam ce qu'il a de quand même. Sauf que ça fait des embouteillages, là, ça c'est un autre problème d'ordre public. Hein. Mais je veux dire que le fait que les mecs ils affichent publiquement qu'ils croient en Dieu, c'est pas trop mal quand même, à mon avis. Bon, alors, donc Foucault, il a eu cet itinéraire de creux, si vous voulez, et puis après, il s'est reconstruit, je crois en particulier grâce à l'Eucharistie. Il allait dans les églises, il était complètement vide, mais j'ai connu un kabyle comme ça aussi, qui a fini par arriver au baptême. Il rentrait dans les églises, il m'a dit, qu'est-ce que tu fais là-bas? Il restait 2-3 heures. Vous ne pouvez pas rester 2-3 heures dans une église, surtout en hiver, quoi, s'il se passe quelque chose, non? Donc à mon avis, ils étaient réchauffés par la prière, par là. Et ils se reconstruisaient, quoi. Et après tout son trouble intérieur, ses déchirures, sa propre mécontentement de lui-même, parce que bon, Foucault, il a aussi des raisons d'être mécontent de lui-même. Hein. C'est son héroïsme militaire et expéditionnaire qui l'a réhabilité en partie déjà à ses propres yeux, mais il était quand même très insatisfait. Donc on ne sait pas où les gens sont. Alors voilà, donc il n'y a pas une conclusion, mais c'est quand même des choses importantes. Alors est-ce que tout le monde a cette certitude morale de crédibilité? En droit, oui. Ça c'est la deuxième page, on va aller plus vite pour la deuxième page. En droit, oui, tout le monde c'est normal, surtout s'il y a un minimum de culture, c'est normal qu'on réfléchisse aux raisons de croire, hein. Il y a quelques bons bouquins, je vous ai indiqué je crois dans la bibliographie la dernière fois, je n'ai pas mis, tiens. Là, je vous en mets une, quelques bons bouquins. Donc, mais c'est vrai que, en fait, il y a des suppléances dans la grâce. Vous voyez? C'est-à-dire que il y a des secours de la grâce actuelle qui ne suppriment pas les signes de crédibilité, mais qui permettent au contraire de les saisir ou de leur faire sortir leur pleine valeur. Et je vous ai mis ici, c'est la seule citation que j'ai mis, une citation de Pie XII, que moi j'ai intégralement sur mon annexe là. Bien plus, l'esprit humain peut éprouver parfois des difficultés à formuler un simple jugement certain de crédibilité au sujet de la foi catholique. Alors là, Pie XII était gentil, c'était en 51. Parfois des difficultés. Bon. Aujourd'hui, on pourrait dire que c'est beaucoup plus répandu. Encore que Dieu ait disposé un grand nombre de signes extérieurs éclatants qui nous permettent de prouver de façon certaine l'origine divine de la religion chrétienne avec les seules lumières naturelles de notre raison. Alors, vous en rencontrez sans doute probablement, certainement, après ce qu'a fait Caté, un certain nombre de personnes, voire ecclésiastiques, progressistes ou semi-progressistes, qui vous diront le Père, c'est une vieille école thomiste, c'est plus comme ça aujourd'hui, on a abandonné cette perspective, etc. Hein? Et bien, mon œil, c'est pas vrai. Ces gars-là l'ont abandonné, mais c'est bien dommage. Parce que c'est noir sur blanc dans le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 156, au numéro 812. Donc on n'a rien abandonné du tout. Le catéchisme de l'Église catholique vaut mieux que la parole de mon vicaire, hein, sauf s'il est sublime et qu'il a tout intégré ce catéchisme. Bon. Non mais attendez, je ne dis pas ça pour démonétiser votre vicaire. Mais je veux dire que c'est quand même la norme, c'est comme une norme qui est substantiellement une norme de foi pour les prédicateurs. Donc c'est certain que la crédibilité de l'Église catholique, de la religion catholique, peut être prouvée par la religion naturelle. Mais concrètement, il y a les passions. En effet, que le mènent les préjugés ou que l'excitent les passions et la volonté mauvaise, l'homme peut opposer un refus et résister autant à l'évidence irrécusable des signes extérieurs qu'aux célestes lumières que Dieu verse dans nos âmes. Oui. Donc, on peut résister. On peut s'opposer, on peut dévier, on peut trouver des prétextes. Je crois que c'est Journet justement qui disait « Malheur à vous si vous cherchez des prétextes, parce que vous les trouverez. » c'est sympathique d'ouvrir un bouquin d'église, voir toutes les saloperies qu'ont fait les curés, les évêques, voir les papes. Dante, il les mettait en enfer, un pape pousse l'autre, dans les papes qu'il n'aimait pas Dante. Bon, pouf, c'est facile. Par contre, il y a aussi beaucoup de saints, il y en a aussi, même peut-être plus. Bon. Donc ça, c'est beaucoup plus intéressant. Mais dire, c'est facile de se scandaliser, quoi. Et des prétextes, on en trouve. Alors on verra qu'à mon avis, moi je maintiens qu'il faut comparer ce qui est comparable, quoi. Si on compare la religion, comparons les saints dans les religions. Comparons vraiment les chers qui sont, ou les gourous, ou les vraiment, ou les bodhisattvas, les plus performants, avec nos saints canonisés. Et on va voir qu'on obtient comme résultat. Alors Satan a déjà fait cette comparaison, personne en particulier pour la question des mystiques. Et comme je vous dis, le résultat, il n'y a pas photo, mais ça on ne dit pas trop aujourd'hui. Et moi ça me paraît de plus en plus clair, même avec les moyens modernes qu'on a de recherche. Et pourtant, ça ne fait pas du tout qu'on méprise ces gens-là, au contraire. Moi, j'ai toujours une grande fascination, une grande admiration pour cette espèce de quête incroyable des hindous. Je vous ai cité le mot d'un jésuite qui revenait d'Inde et qui nous parlait à nous, jeunes des classes préparatoires jésuitiques, là, pas loin d'ici, enfin quand même à quelques kilomètres, qui nous disait, mais vous savez, ici, il n'y a pas assez de Dieu. Là-bas, il y en a trop. En revenant d'Inde, oui. Et c'est vrai que c'est assez bien vu. Quoi. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de fascinant. Et Journet cite un poème absolument magnifique de Pérégrinant. Hein, bon, il y a des choses absolument magnifiques chez les Égyptiens aussi, un très beau poème de mort. Mais enfin, comparons tout bien, mettons ça, hein, bien étudié critiquement, hein, avec la montée du Carmen et la nuit obscure de Saint-Jean de la Croix. Attendez. Et après, venir me dire ce que vous pensez. Ou le dialogue de Catherine de Sienne, ou que sais-je, enfin, l'idée, ou la vie de Mère Teresa, je ne sais pas, l'idée des trucs comme ça. Et lisez, parce qu'il y a des trucs très, très impressionnants, même dans certains mystiques soufis, dans l'islam, c'est un peu minoritaire, mais ça existe quand même. Voilà. Alors donc, ça, je crois qu'il faut manier qu'il y a donc cette certitude, mais il y a la passion qui fait qu'on a besoin de la grâce pour nous libérer par rapport à ça. Et je crois qu'actuellement, c'est un gros problème, c'est que le dialogue est faussé, si vous voulez. Je me souviens, à un moment donné, il y a toujours le rideau de bambou et le laokai, sauf que maintenant ils font des mimines capitalistes. Enfin, moi j'ai assisté à des conférences d'un gars qui avait subi de lavage de cerveau, hein, dans les prisons de Mao. Et il s'appelait Van Coy. C'était un néerlandais. Et il était chef de la mission de Mao. Il avait été torturé. Personne ne faisait ces conférences. On était 12 à l'écouter. Hein, 70 par là. Ce que je trouvais scandaleux, parce que les mecs, les cocos, je dis, mais attendez, mais vous renseignez sur l'oncle Mao, là, un peu, là. Qu'est-ce qu'il fait, vraiment, un peu, là. Alors, il décrivait ses tortures et tout, les gauchos, ils ricanaient. Bon, mais alors, pourquoi je vous parle de ce rideau? Ah oui, parce que en fait, il y a un type qui a écrit un bouquin sur Christiani, je crois, sur la version chinoise du communisme, et lui, il évoque l'hypothèse d'une possession collective. Alors, c'est peut-être un peu radical, mais moi, j'ai eu des Chinois qui m'ont parlé, j'ai lu des bouquins de ce qu'ils ont vu pendant la révolution culturelle, et je vous avoue qu'il ne faut pas exclure. De même que pour Hitler, ou quelques cas comme ça, limite, on se demande s'il n'y a pas en plus une influence vraiment démoniaque. Alors, possession collective. Alors, pour l'Occident, il n'y a pas de possession collective, me semble-t-il, quoi qu'il y a des possessions et des infestations nombreuses, pas assez traitées, d'ailleurs. Hein, je vous ai dit que moi, j'ai vu, une fois, j'ai parlé avec une jeune ex-catholique devenue musulmane pour recevoir l'exorcisme parce que les prêtres catholiques ne voulaient pas lui faire. Donc elle a-t-elle recevoir chez les chaïrs, je ne sais pas quel groupe islamique. Et donc il y en a, mais à mon avis ce qui me frappe moins dans l'Occident, c'est qu'il y a une anesthésie collective qui joue à peu près plus efficacement le rôle d'une possession. C'est-à-dire qu'on n'est pas libre, si vous voulez. On n'est pas libre pour la pensée. Enfin, c'est la prophétie de Berdanos en 47. Hein. Il n'a rien compris au monde moderne, celui qui n'a pas vu que la civilisation moderne, que c'est une vaste conspiration contre toute forme de vie intérieure. Et je pense que c'est ça qui est embêtant, vous voyez. Parce qu'on n'est plus à l'heure du petit père con, enfin si, parfois on lit des trucs, on a l'impression de lire Voltaire et tout, vous lisez. Moi j'ai lu Salman Rushdie dans l'avion, dans Libération, parce que c'est gratuit dans l'avion, donc je prends l'idée et le monde. Et alors j'ai un grand truc de Salman Rushdie, lettre aux 6 milliardièmes d'hommes, vous voyez, ça vous met à peu près la date du truc. Et donc là c'est un truc, mais je me disais, mais attendez, pourquoi c'est pas signé Voltaire, quoi. C'est assez bien fait, d'ailleurs. C'est un délire absolument vomitif et apocalypto anti-tout, quoi. Anti-tout, anti-dieu, anti... C'était les trois imposteurs à puissance 12. Enfin, bon, ça, il y a ça. Mais moi, ça c'est vrai, bon, ça existe, c'est vrai. Puis vous avez les bouquins qu'on a un peu évoqués, délirants, anti-dieu, là. Mais ce qui me frappe plutôt, c'est le froid, si vous voulez. Enfin, le fait qu'on peut... On n'est plus libre, quoi. C'est que moi, dans mon enfance, moi, j'ai connu Paris, quand même, dans les années 50-60, et il me semble qu'il y a moins de... on est puni parce qu'on n'a plus le temps, quoi. On est tout le temps surbooké, pris, machin, et puis parce que ça se fait pas, si vous voulez. Les émissions intéressantes sont à 23h sur les trucs où il n'y a pas beaucoup de fréquences et tout. Les grands trucs, c'est tout nul de chez nul, de nul à la puissance n tendant vers l'infini, quoi. Et donc on est de plus en plus dans l'absence. Moi ça me frappe, c'est pas, je pensais pas qu'elle arriverait comme ça quand on entendait voler les pavés. Je pensais à un autre schéma, quoi. Mais elle est venue comme ça, c'est que, ben voilà, les passions, les mecs, ben justement, ils en ont plus. Hein, les passions, c'est qu'il n'y a pas le temps. Alors il y a le workman, il y a le machin, il y a le truc, il y a le stress, il y a le truc, il y a... Et puis il y a surtout, on a des élites, si vous voulez, universitaires, ecclésiastiques, enfin je suis gentil parce que il faudrait que je sois un peu plus dans certains gros, dans certains endroits, parce que qui ne disent plus rien. Et elles ne disent plus, elles ne transmettent plus des trucs, enfin je sais pas. Où est-ce qu'ils sont les grands écrivains catholiques qu'on avait dans les années 50 ou 60, on en avait quand même un certain nombre, plus ou moins sympathiques, Mauriac, Claudel, tout ça, mais c'est quand même pas des nuls, hein, Maritain, Gilson, enfin ils se tenaient la route, quoi. Ils sont où ces gars-là, qu'est-ce qu'ils disent? On les entend pas beaucoup. Enfin, vous me renseignerez à la fin du cours, surtout moi être trop critique. Mais vous voyez, je crois qu'il me semble qu'il y a une première étape qui est de faire sauter la passion. Or la passion, c'est le mutisme, c'est l'absence. Attraper les mecs, faut qu'ils sortent, qu'ils fassent un goom, qu'ils reviennent dans le réel, trouver des trucs, quoi. Je sais pas comment, c'est à vous de le faire, c'est pas à moi. Hein. Moi je viendrai pour leur prêcher après. Mais il faut les ramener d'une façon ou d'une autre, quoi. Donc les... Bon, voilà. Alors, bon, ça, c'est une certitude, voilà. On a une certitude morale, bon, qui est convenable pour tout le monde. En fait, il y a des suppléants. Et puis, il y a une certitude scientifique qui est très convenable pour l'Église. Je vous ai dit qu'à mon avis, une des causes de la crise dans l'Église, c'est qu'on néglige trop l'apologétique. On a un peu peur de la raison. Oui. On a l'impression qu'on... C'est très rare de voir des chrétiens, des catholiques ou des prêtres qui vous parlent du fait qu'il y a une voie rationnelle pour accéder à Dieu. C'est rarissime. Et c'est très dommage, pourtant ça fait vraiment partie du bagage. À quelqu'un qui dirait ça de façon pertinente, à mon avis, il a fait naufrage dans la foi. C'est un anathème solennel du Concile Vatican I contre celui qui dit ça. Bon, mais là, alors là, je suis vraiment très très curieux de dire ça, et c'est pourtant, malheureusement, on a des catholiques qui sont fidéistes très souvent, et c'est pas bon. Et donc je pense qu'il faut inciter à revenir au goût de la réflexion, au goût de l'approfondissement, voilà. Et donc qu'il y ait au moins certains dans l'Église qui puissent faire les démonstrations historiques et métaphysiques qui amènent à la pleine certitude de la crédibilité de la foi catholique. Et c'est vrai que maintenant on a des matériaux, je dirais, je vais vous dire un peu du positif, mais on a des matériaux informatiques et je dirais bibliophiliques et critiques, manuscrits, on en parle là, qui sont incomparables par rapport à ce qu'on avait même il y a 60 ans. Et c'est vrai, donc il y a un certain mouvement qui se dégage chez nous, et aussi chez certains juifs, certains musulmans, pour revenir quand même à une lecture historique plus raisonnable de l'histoire des révélations. Voilà. Alors, ben, le reste, on le fera peut-être... Ben, le reste, c'est ce qu'on va voir pendant le café. Hein. On le détaillera. Je vous donne simplement, pour garder ensemble la liste ici, des différents motifs de crédibilité. Vous avez des motifs internes et des motifs externes, et je vais insister sur les deux, parce que la tendance actuelle est de parler que des motifs internes. Vous voyez, c'est des motifs internes, c'est des motifs, si vous voulez, qui sont internes à la conscience. Je vous en ai parlé moi-même en disant qu'on se construisait dans la raison en allant dans le sens de la révélation. Mais ces motifs internes doivent trouver un point d'appui dans des motifs externes, dont les plus décisifs sont le miracle et la prophétie. Il y a un jeu en fait entre ce qui est externe, donc constatable, si vous voulez, même par quelqu'un qui n'a pas la foi, et ce qui est plus intérieur, à savoir l'impact, si vous voulez, de la religion révélée dans mon cœur. Et là, je crois qu'il y a des choses très très intéressantes, aussi bien dans les témoignages qu'ailleurs, mais ça doit répondre aussi à une reconstruction des preuves externes, l'historicité indéniable des évangiles, la continuité historique inattaquable de l'Église catholique avec ses fondements évangéliques, et ce genre de choses. Et mais ça, en répondant avec des choses plus intérieures, vous voyez, c'est vrai que même Debray, à la fin de son bouquin, où il compare un peu islam, il compare islam, judaïsme actuel, hein, et puis catholicisme, bon, il ne tranche pas, non. Enfin, il montre qu'il incline quand même plus vers la religion qui a été celle de son enfance. Et les arguments qu'il donne, c'est drôle, les quelques arguments qu'il esquisse, hein. Il est très contre la preuve par la vérité, donc il est très anti-Benoît XVI. Mais bon, là, on ne le suivra pas là-dessus. Mais par contre, c'est assez touchant de voir que dans son désespoir, enfin, parce que c'est un livre impressionnant, hein, pour une situation bloquée qui est celle de la Terre Sainte, hein, c'est sur la Terre Sainte. Et dans les signes qu'il donne, c'est quand même, il dit, c'est vrai que vous ne trouvez ni dans l'islam ni dans le judaïsme l'équivalent de Mère Teresa. Voilà ce qu'il dit. Après, il parle aussi de l'abbé Pierre et quelques autres, mais cette figure de charité, oui. Et c'est vrai que c'est bon, c'est quand même un gros argument en faveur de, en faveur du bienfait interne de la religion révélée. Voilà. Bon. Oui, je dis ça avant de passer aux questions, si vous en avez. Ceux qui sont en dehors de l'Église catholique ont eux-mêmes soit des signes de crédibilité qu'on évoquera peut-être rapidement ou que nous ne connaissons pas, soit en tout cas ils ont la possibilité d'arriver au salut en respectant la loi naturelle telle qu'ils la connaissent. C'était affirmé déjà par Pie IX, maintenant on a beaucoup réinsisté sur ce point-là, mais de façon peut-être moins claire, moins formelle. Celui qui est hors de la révélation peut arriver au salut s'il observe la loi naturelle inscrite dans son cœur pour autant qu'il la connaît, et s'il est docile aux grâces que Dieu lui envoie. C'est-à-dire là, comme Dieu veut le salut de tous les hommes, eh bien, il pourra arriver au salut. Mais il faut qu'il soit dans ce qu'on appelle l'ignorance invincible. L'ignorance invincible, c'est une ignorance pour laquelle vous n'avez pas de responsabilité. Vous êtes né dans un groupe dissident, vous n'avez pas eu d'approche du christianisme, vous n'avez pas... Voilà. Donc vous êtes complètement en dehors du coup, mais on ne peut pas vous imputer votre ignorance. Par contre, celui qui naît en terre chrétienne, qui n'essaye pas du tout de se cultiver, qui n'essaye pas du tout d'approfondir alors qu'il a des signaux qui le poussent vers ça, là il y a moins de chances que l'ignorance soit invincible. Voilà, merci de votre attention. Pierre. Il a désir. Non, ouais, c'est compliqué. En fait, il a ce qu'on appelle la pieuse affection pour croire. C'est-à-dire qu'il a quelque chose dans la volonté, il veut aimer. Il voudrait aimer, mais son amour n'est encore que naturel. Quoi. Il y a une estime de Dieu, une estime de la religion, mais ce n'est pas encore surnaturalisé dans la charité. Oui, c'est possible. Il fait un péché contre l'esprit à ce moment-là.
Et quelle est la différence comment ça va jouer entre celui précédemment qui attend le secours de la grâce et celui qui déjà le reçoit par la vie? Qu'est-ce qui va jouer?
Celui qui attend le secours de la grâce le recevra. Parce que Dieu veut le salut de tous les hommes. Mais à quel moment? Peut-être juste avant de mourir, enfin il le recevra. Celui qui est, donc il met un obstacle, vous voyez, parce qu'en fait, nous on peut simplement écarter les obstacles. C'est Dieu qui va conduire selon son plan et...
D'accord, mais par défaut, l'homme, si Dieu lui donne pas une grâce pour tendre par sa volonté vers lui,
il ne peut pas le faire.
Pas de dénonciation de Dieu.
Ah non, pas formel. C'est-à-dire que si... De toute façon, Dieu donne à tous la grâce de le rechercher. Et ceux qui sont damnés sauront que c'est par leur faute. Et ils ne reprocheront pas à Dieu de ne pas leur avoir donné les secours puisque les auront écartés volontairement. Oui. Donc ils ont des secours, voilà. Mais ils ne sont pas forcément dans une haine formelle de Dieu. Ils n'ont pas encore reçu la grâce, mais la haine formelle de Dieu, c'est un péché particulier. Que tous ne commettent pas grâce à Dieu. Donc ils sont dans l'indifférence, ou dans l'interrogation, ou dans l'expectative, dans... Mais c'est mystérieux, hein, chacun... Les philosophes, là. Pas de question. Oui, non, pas Benoît.
Tout à l'heure, c'était une faute de commettre un acte qui serait déraisonnable.
Qu'on verrait être contre la raison.
Qu'on verrait être contre la raison. Voilà. C'est que dans la vie, il y a des exemples d'actes qui sont faits parce que Dieu le demande. quand Dieu demande à Abraham de tuer son fils, par exemple.
Ça, c'est la question piège.
La question piège, oui, mais il était prêt à le faire. Alors que pourtant, naturellement, c'est un acte.
Mais si je réponds vraiment, vous allez avoir peur de ma réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, mais je vais répondre. Non, pas Pierre.
Une question pour Califan, un oracle chez les Grecs et un prophète chez les Juifs, sachant que l'oracle résonne aussi des signes qui lui sont externes.
Oui.
Et pourquoi les Grecs n'ont pas la révélation? Pourquoi c'est dans la contemplation et dans le raisonnement interne?
Oui, c'est bien.
Comment qu'est-ce qui fait que justement la révélation?
Alors, il n'est pas impossible que certains oracles grecs aient eu une révélation, si vous voulez. Le christianisme dit pas qu'il n'y a aucune révélation en dehors de lui. Il dit que la révélation totale, plénière et cohérente, c'est dans l'Église qui commence avec Adam et Ève et qui se formalise avec le Christ. Donc il y a dans la petite Delphes ou d'autres, peut-être des choses qui étaient révélées, bon. Mais le problème est la façon de les discerner. Parce que très souvent, on le verra quand on parlera du miracle, on discerne la vérité, l'origine divine du prodige. Il y a des prodiges, si vous voulez. Mais il faut savoir s'ils sont naturels, de force inconnue, s'ils sont des supercheries, s'ils viennent du diable ou s'ils viennent de Dieu. Et ça, c'est uniquement l'aura morale autour qui permet de le distinguer. Et très souvent, bon, chez Descartes, je n'ai pas fait l'étude détaillée, mais il se peut que beaucoup de ces oracles avaient une aura qui ne donnait pas cette moralité suffisante. Mais ça ne veut pas dire que tout est faux et que... Et en plus, si vous voulez, il me semble que la pensée grecque s'est construite, donc bien sûr il y a le mythe, etc. Mais le fait que les choses soient révélées ne joue pas du tout chez les Grecs le même rôle que ça joue chez les Juifs. Chez les Juifs, le peuple juif est construit sur la révélation. Je suis le peuple qu'a suscité la parole de Dieu. Parce que les Grecs, c'est des gars qui vivent dans un beau pays, hein, et qui pensent avec leur tête. Et ils inventent l'intelligence et ils découvrent que l'homme est une intelligence qui a des mains. Et le plus beau langage qui soit né sur des lèvres humaines, entre autres. Voilà. C'est un peuple favorisé des dieux, si j'ose dire, enfin, vous comprenez ce que je veux dire, et qui a fait des choses extraordinaires, mais qui n'a pas dit, attendez, nous, on a une élection, on est choisi pour sortir, pour aller là. Ils se sont comportés comme des gens qui réfléchissaient, d'ailleurs, ils ont... Hein, bon, ensuite, évidemment, ils ont envahi le monde avec Alexandre, mais leur vocation n'était pas tellement messianique, quoi. C'est vraiment le logos, la pensée. Et bon, qu'il y ait des révélations. Les sages tardifs se sont éloignés poliment des révélations. Il faut bien connaître que Platon et Aristote, et quand même, ils ne les niaient pas, mais enfin, ils étaient distants ou prudents, ou, enfin, ça dépend. D'autres questions? Je répondrai pour Abraham, enfin, j'essaierai de répondre. Oui?
À propos de, à la fois de la tradition de la vérité plénière dans l'Église catholique et du dialogue œcuménique, quelqu'un qui regarderait l'histoire de l'Église dans les premiers siècles ou à certains moments où les hérésies sont triomphantes à peu près partout sauf à Rome, comment lui argumenter que Rome gardait seule la vérité alors que...
Il faut argumenter, on le verra quand on... L'année prochaine, on parlera peut-être de l'Église, si je suis encore vivant, et si vous l'êtes, ce ne sera peut-être pas le cas de tous. Hein. Alors donc, c'est pour mettre un peu d'ambiance. Et, attendez, donc, en fait, on en parlera dans l'Église, il y a l'argument, la prescription, si vous voulez, la polysémie, c'est un argument développé par Soloviev, la prescription. C'est-à-dire que on en parlera quand on parlera de Soloviev, c'est-à-dire qu'il y a l'apostolicité, l'Église qui se trouve être à Rome, et en plus on a trouvé un bout d'os entouré de pourpre, hein, juste à l'endroit comme par hasard. Donc maintenant, on est historiquement quasiment certain que Pierre est enterré là. Pierre ou au moins un personnage apostolique. Bon. Donc l'Église qui est à Rome est la seule qui peut arguer, si vous voulez, d'une relation entre sa succession de chef et la doctrine telle qu'aujourd'hui, vous pouvez la trouver dans le catéchisme de l'Église catholique en gros. La seule. Et ça même, si vous voulez, c'est le gros argument qui gênait beaucoup Luther et les interlocuteurs de Saint François de Sales. Peut-on se sauver dans l'Église catholique? Il demandait Saint François de Sales à, je crois que c'était Théodore de Besse, je ne sais pas avec qui il discutait. Et évidemment, il était très ennuyé parce qu'il disait, si, il disait oui, ben, il disait pourquoi vous ne restez pas? S'il disait non, comment les gens se sont sauvés pendant 1500 ans? Donc cet argument, si vous voulez, je crois qu'il est difficile à rejeter. On peut s'énerver contre lui, mais je crois que vraiment, seule l'Église catholique, avec son siège à Rome et puis d'autres sièges, Antioche, Jérusalem, etc., prouve cette connexion, si vous voulez, entre des êtres physiques et historiques et le contenu, invariable, substantiellement invariable. Mais, je crois que c'est ça le nerf de la réponse. D'ailleurs, c'est l'argument employé par les premiers pères apologètes. Nous disons la même chose que il est qu'à une époque où on pouvait contester s'il disait des choses fausses. Donc ça, c'est très impressionnant, si vous voulez, c'est la seule. Parce que dans tous les autres groupes, vous voyez le moment où s'introduit la division, plus ou moins. Mais et quelquefois, il a revendiqué, comme chez Luther. Mais c'est vrai, je vous concède quand même une chose, c'est qu'il y a des périodes de crise dans l'Église. Moi, je crois qu'on sort, on est en train de sortir d'une période, quand même, peut-être vous avez moins vu, mais je crois quand même une crise assez forte, où il y a une confusion telle, je crois que dans les matines de Bède le Vénérable, on dit ça, texte de Bède le Vénérable, dans l'évangile de la tempête recouvre tellement la barque que s'il était possible, pour un moment, on se dit, elle va couler, quoi. Vous voyez, il y a des moments, si vous voulez, où pendant, disons, peut-être, en général, ça ne dépasse pas 38 ans, j'avais fait le calcul après la durée du grand schisme, quoi. Mais il y a un moment où on se dit, mais attendez, on a complètement oublié telle vérité fondamentale. Puis on s'aperçoit, bon, on ne la disait pas, mais on ne l'avait pas oublié. Alors ça ne dure pas trop longtemps, grâce à Dieu. Ça ne dure pas 1200 ans. Hein. Il y a des gars qui vous disent, on a oublié la morale chrétienne depuis 1200 ans. Hein. Ben, je vous le dis, il y a des gens qui disent ça, qui ne sont pas, même pas des progressistes. Alors ça fait peur d'entendre des trucs pareils. Non, c'est pas possible. En gros, il y a une continuité, avec quelques accros, si vous voulez, mais quand même, c'est pas des trous de 2000 ans comme vous avez. On verra dans l'apologétique par rapport au judaïsme, on peut parler d'un trou de 2000 ans, enfin d'une interruption d'éléments fondamentaux pendant 2000 ans. Quoi. Donc je crois que la clé c'est ça, c'est l'historicité, enfin l'apostolicité soutenant le contenu identique de la doctrine.
Sans pouvoir imaginer qu'un successeur apostolique ou dans des choses périphériques ait pu rentrer dans une
voie erronée,
une explicitation
discutable.
Oui.
Alors, je vais vous dire, ça sera redressé. Il n'est même pas impossible qu'un pape devienne hérétique. Alors moi, personnellement, je pense avec Cajetan qu'un pape peut tomber dans l'hérésie. Mais à ce moment-là, il y a un processus, si vous voulez, de réaction des anticorps qui fait que, bon, il est hérétique, il disjoncte, quoi. Il dit une hérésie, il la soutient, mordicus. À ce moment-là, les autres, les cardinaux, les évêques, ils sont l'Église, eux, si vous voulez. Et automatiquement, si vraiment le pape est devenu hérétique, et à mon avis il n'a pas dit ce pontificat, les évêques et les cardinaux le mettent en demeure et le mettent de côté. Parce que vous voyez, par exemple, le cas du grand schisme. Il y avait trois bonhommes qui se prétendaient papes. Ben, on les a tous mis d'accord en disant vous démissionnez tous. Quoi. Il y a une réaction vitale de l'Église qui fait que ça ne peut pas durer éternellement. Mais il n'est pas impossible, je crois qu'on peut admettre qu'il y ait des pontifs, Honorius en particulier, puis un plus proche de nous que je ne nommerai pas, je pense qu'on favorisait l'hérésie dans l'Église. Ben je le dis, c'est parce que je pense, moi je l'ai vécu, j'en ai vécu les conséquences, si vous voulez. Un pontife qui pendant 15 ans condamne les gars qui affirment une certaine vérité, condamne, ne fait rien pour les soutenir, et encourage tous ceux qui les démolissent et qui enseignent des hérésies de HKZ, comme moi j'ai vu pendant 15 ans de ma vie à peu près, ben, je trouve que c'est pas bien, quoi. C'est pas sympa. Mais bon, c'est une opinion tout à fait privée. Je la soutiens jusqu'au bûcher exclusivement. Mais je crois que ça peut arriver. Je crois qu'il ne faut pas non plus trop idéaliser, si vous voulez. Ceci dit, l'Église s'est maintenue, l'Église continue, puis avoir une bavure, si vous voulez, très dommageable. Et à mon avis, c'est pour ça que moi je dis aux évêques, aux gens, je leur dis, mais si vous avez telle opinion, bah dites-la, même si elle n'est pas celle du pape. Enfin, du moins, si c'est quelque chose de, dites-le correctement, quoi. Vous voyez ? Si vous pensez qu'il ne faut pas faire de réunion assise, ou si vous pensez que les repentances sont théologiquement le plus mal foutu qu'on puisse imaginer, écrivez-le, moi je l'ai fait. Ben, Benoît XVI ne me l'a jamais reproché. Et il faut le faire, parce que sinon, avec les gauchistes qui écrivent des trucs, ils ont leur délire, et puis les bons, ils se font cela, béni oui, oui, Adèle Saint-Père, elle désire du Saint-Père. Adèle Saint-Père peut faire des trucs qui ne sont pas le must, quoi. Et donc, on lui dit gentiment, et bon, quelque part, ça ne se passe pas bien pour le mec qui dit ça, je reconnais. Mais vous voyez, il ne faut pas non plus l'obéissance, c'est quelque chose de vivant aussi. Il ne faut pas faire un schisme, faut pas, bien sûr, c'est clair. Mais je trouve que souvent, on est. Parce qu'on devait être de Léon XIII à Pie XI, on a eu une conception et une formalisation de l'Église, de l'obéissance dans l'Église très jésuite. Quoi. C'est-à-dire, sous le Beffel, et puis donc, ou la boucler. Moi, par exemple, je vous ai parlé du pape hérétique, là, ben j'ai entendu de la propre bouche d'un dominicain qui faisait sa thèse sous Pie XI. Vous voyez, maintenant il est mort, il n'est pas tout jeune. Et son sujet de thèse, c'était le pape hérétique chez Cajetan. Et bien, la secrétaire d'État a fait savoir qu'il ne fallait pas soutenir ce sujet. Interdit l'étude de Cajetan sur ce point. En 1936, ben, je trouve que c'est dommage. Le type est tout à fait orthodoxe, hein, bien entendu, mais il n'avait même pas évoqué l'hypothèse que, bah, écoutez, il vaut mieux l'évoquer avant, parce qu'après, quand ça arrive, on s'est un peu entraîné. Saint Vincent Ferrier, il a bien été obligé d'aborder ce problème avec le pape schismatique, hein, puisqu'il a pensé que Pierre de Lune était devenu schismatique en refusant l'union de l'Église. Et donc, il est monté en chaire, Et il a dit, le pape n'est plus pape parce qu'il refuse l'unité de l'Église. Et c'est ça qui a permis la réunion ensuite, parce qu'il a perdu tous ses soutiens, le roi de France, l'empereur d'Allemagne, et du coup on a refait l'union. Donc c'est possible, c'est vrai qu'il y a des choses très angoissantes. Mais justement, je trouve que c'est ça qui est beau dans l'Église, c'est qu'il ne faut jamais désespérer, si vous voulez, de la structure, même si elle est quelquefois souillée, quoi, dans ses membres. Alors, autre question avant de parler d'Abraham, si on en parle. Françoise ? Alors, le cas d'Abraham, c'est les sujets qui fâchent, hein, je vous signale. Moi, je vais vous dire, il y a une chose difficile dans l'Ancien Testament, c'est la morale des patriarches. Alors, il faut dire une chose, je crois que Raïs Samaritain a écrit là-dessus un livre sur Abraham, je n'ai pas eu le temps de le lire. Mais je crois que sa thèse dans l'ensemble, c'était de dire, on découvre peu à peu la loi naturelle. C'est-à-dire que la loi naturelle, bon, je vous ai montré dans le premier café caté, la raison peut y accéder, mais en fait, comme on est faible, on a besoin que Dieu nous enseigne. Mais pour avoir les conséquences, la monogamie est une conséquence indirecte, enfin une conséquence véritable, une conséquence ou une détermination de la loi naturelle. Mais elle ne saute pas aux yeux comme le fait que l'homicide est immoral. Oui. Enfin là, je ne veux pas faire de peine à mesdames, mais c'est ce que dit saint Thomas, je crois que c'est juste. Bon. Donc il y a une certaine progression de l'esprit, c'est l'idée de Maritain, moi elle me semble raisonnable. L'esprit, bon, le patriarche, bon, il venait de Dour, en Chaldée, il y avait une certaine sagesse et tout, mais qui était quand même mêlé de pas mal d'erreurs polythéistes et autres. Bon. Et puis là, la polygamie, entre autres. Bon. Et donc il y a cet élément-là. Donc lui, il avait l'appréhension de la loi naturelle telle que pouvait l'avoir un gars qui vivait il y a 3800 ans ou quelque chose comme ça. Et puis deuxièmement, il y a aussi un fait très important, alors là vous allez peut-être être très mécontent, Dieu est le maître de la vie. Et Abraham, alors là j'ai failli vous prendre cet exemple-là, mais je ne l'ai pas pris pour, je ne m'en pas aborder, mais on est obligé avec vous. Abraham avait la certitude absolue que c'était Dieu qui lui parlait. Et Dieu est le maître de la vie, et quand on, évidemment, quand Dieu dit tu ne tueras pas, il y a au moins trois exceptions qui sont connues par les théologiens et les catholiques normalement constitués, la légitime défense, la juste guerre et l'exécution du coupable condamné à mort. Voilà, ça fait trois cas où on peut tuer quelqu'un qui n'est plus un innocent. Alors ça choque beaucoup les gens, moi je trouve que c'est moins choquant que l'exécution des innocents auxquels on assiste quand on laisse tout ça de côté, soi-disant plus jamais de guerre, il y en a. Bon. Je trouve que ces trois cas sont tout à fait justes. La légitime défense, bah parfois il faut dégringoler le gars pour se défendre, hein, je suis désolé. Là maintenant c'est vous qui avez le procès, on vous colle un truc pour homicide volontaire parce que vous avez un peu trop étranglé le gars qui vous arrosait d'essence, qui allait mettre le feu. C'est un fait authentique que je vous donne. Bon, alors, excusez-moi, mais on vit dans une situation un peu. Il y a des excès, d'accord, je ne suis pas pour les abus de la police, pas du tout. Mais quand même, bon, donc il y a trois cas, si vous voulez, ça montre que la vie n'est quand même. Quand on dit la vie est un absolu, oui, la vie est un. Ce qui est absolu, si vous voulez, c'est la vie humaine, mais cette vie humaine est éternelle, quoi. Donc dans la peine de mort, moi j'ai lu, si vous lisez le livre de, j'étais aumônier à Fresnes, c'est vraiment l'aumônier de Fresnes, qui a été donc aumônier de 45 à 62, donc vous voyez, il a assisté pas mal de gars au poteau, quoi. Et souvent des gars qui n'étaient pas des droits communs. Et il dit, combien de fois j'ai vu des conversions? Combien de fois? Donc si vous voulez, la perspective de la peine de mort, je ne vous lance pas le débat là-dessus, mais est vue par le réaliste, je dirais, le spiritualiste, dans la perspective de l'éternité. Hein, et le chef de la milice est mort et il a dit à votre berger, quelle grâce j'ai de mourir fusillé, car imagine-toi que j'aurais pu mourir comme un chien avec une balle dans les combats, parce qu'il avait fait 36 combats, sans un retour sur ma conscience. Donc il a été sauvé parce qu'il a été en fait, parce qu'il est mort comme ça. Voilà. Bon, donc si vous voulez, la vie, c'est pour vous dire que la vie est un absolu, mais un absolu qu'il faut quand même mettre dans sa perspective éternelle. Et donc Dieu peut retirer la vie à quelqu'un. Et là, Abraham avait la certitude que Dieu lui demandait ça. Alors bon, je ne vous oblige pas à adhérer à ma position. Moi, je crois que c'est plus raisonnable de dire ça plutôt que de dire ben, c'est bien qu'il s'apprêtait à faire un meurtre. Quoi. Enfin, à faire un meurtre, à faire un homicide coupable. Quoi. Mais bon, c'est assez horrible. Hein. Je reconnais heureusement qu'il y a l'ange qui. Moi, je préfère être prêtre dans le Nouveau Testament parce que j'ai pas besoin de me mettre pieds nus pour baigner dans le sang. Quoi. Comme les prêtres de l'Ancien Testament. C'était très quand même boucherie. Hein. Maintenant, on n'a plus ça. Donc regardez par exemple ça, vous prenez une comparaison pour le côté de la religion, le judaïsme biblique et le christianisme. Ben, quand même la messe, je trouve que c'est mieux que d'étrangler les brebis. C'est pas, j'aime pas manger des brebis, mais vous voyez, c'est quand même un sacerdoce quand même plus spirituel. À mon avis, c'est aussi un argument d'apologie. Donc voilà ma réponse sur le sujet délicat. Oui, de cette fête, oui.
L'absurde de l'existence lui est révélée à partir de là, il se doit d'attendre le crime pour que cet absurde ait un sens.
Ça, c'est la lecture de Kierkegaard, ouais.
Voilà.
Qui est toujours à la limite du désespoir. Enfin, il voit tellement le côté absurde des choses, mais c'est sûr qu'Abraham passe en même temps, si vous voulez, qu'il y a cet élément, à mon avis, de droit divin, un peu horrible, si vous voulez, tel que nous pouvons l'appréhender. Bon. En même temps, il y a une nuit mystique d'Abraham. Abraham est quand même, pour le père de mon Léon, est un grand contemplatif. Donc il passe par l'équivalent de la purification de la nuit de l'esprit. Et dans la nuit de l'esprit, le contemplatif n'a plus les appuis de crédibilité de la foi. Tout ce que je viens de vous dire, il est comme Thérèse de l'enfant Jésus avant sa mort. Elle, le diable disait, mais il n'y a rien de l'autre côté. Vous voyez, elle était dans la foi pure, quoi. Il y a une foi qui ne trouvait plus où s'appuyer dans le sol de la raison, apparemment. Mais quand même, la foi était bien enracinée. Et donc Abraham s'est trouvé dans cette situation-là. Donc c'est très, 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 très émouvant. Et en plus, il faut voir aussi que, bon, pour les gens de l'époque, vous, ça vous aime beaucoup, parce que, bon, vous aimez beaucoup les petits minous et tout, comme moi, hein, les petits bébés sont adorables. Mais, enfin, adorables, c'est comme une quid. Mais, bon, pour les sémites, les enfants, il en faut, quoi. Il faut qu'il y ait des gosses, quoi. Donc si vous tuez le fils de la promesse, c'est là le problème. Le problème pour les anciens était beaucoup plus, pourquoi lui demande-t-il de tuer celui qui doit porter la promesse ? Que pourquoi il lui demande d'exécuter un de ses fils, parce que Abraham était entouré de gens dans lesquels les populations qui avaient le sacrifice des fils, qui est horrible que Dieu a prescrit.